Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, diffusé en direct le mercredi 31 août de 18 à 21h et en différé le jeudi 1er septembre dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Patrick Simon. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Pour nous aider à demeurer libres, vous pouvez adhérer à notre association. La cotisation annuelle minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Nous adressons 3 exemplaires de chaque publication aux adhérents qui auront décidé de cotiser pour une somme supérieure à la redevance de télévision. Adressez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le souhaitez, vous pouvez intervenir au cours du libre journal de Serge de Bekech par téléphone au 46 51 00 85 ou par télécopieur au 46 51 21 82.
Le 31 du mois d'août, le 31 du mois d'août, on vit venir sous le vent à nous, on vit venir sous le vent à nous, une frégate d'Angleterre qui fendait la mer et les flots, c'est la courroie des rameaux. Buvons un coup, buvons en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France, et mère pour la reine d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre.
C'était un disque de la Serpe. En cours de... Non, alors, bonsoir. D'abord, bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, moi aussi, merci. Pour ceux qui étaient partis en vacances, parce que maintenant, je vous ai remarqué, il y a un truc qui est très chic, c'est de dire « je ne prends pas de vacances ». D'ailleurs, je n'ai pas pris de vacances. Mais j'étais obligé de travailler. Qu'est-ce que j'étais pour dire ?
Le travail,
oui.
C'est la santé.
Alors donc, en rentrant, on s'est dit, ADG, qui est ici, avec Paul Robert et Philippe Colombani, plus connu, j'allais dire plus honorablement connu sous le nom d'Aramis, ADG a fait remarquer que nous étions le 31 août. Et Paul Robert, qui est un puits de science musicale, a dit, mais bon sang, c'est le moment ou jamais de passer le disque intitulé le 31 du mois d'août. Et on l'a cherché dans le stock de 72 000 disques de Radio Courtoisie.
Ah, tu dis Dix, toi aussi.
Dix, oui. Dix.
Scandale.
72 000 disques. Pas de 31 du mois d'août. Un 31 du mois d'août. Alors on a trouvé.
Il
y avait Sheila. Lors de la rentrée.
Qui a volé le disque ?
Alors, quel est le voleur du disque ? La question reste. Philippe a rougi. Philippe Varlet, vous avez rougi. J'ai vu. Bon. Donc, pas de disque. Alors, on s'est dit, on va en faire un rapidement. Et vous avez entendu le premier couplet. Après, on a dans une. À la pause, on enregistrera le deuxième couplet. Mais il faut que Paul nous l'écrive parce que je ne me souviens pas les paroles. Cette émission sera une émission double. La première partie sera, si on arrive à aller jusqu'au bout de la première partie, ce qui n'est pas certain, non, on ne boit pas double. Si on arrive à aller jusqu'au bout de la première partie aura été consacrée à un vaste panorama de l'actualité. Non, c'est pas de ça que vous voulez parler. Moi, je veux bien parler de ce qu'on veut, j'arrive. La deuxième partie de l'émission sera consacrée, alors ne vous récriez pas parce que vous allez voir que c'est passionnant, au chant grégorien. Vous savez qu'Yves Gire fait une émission toutes les semaines, qui est une émission formidable, je trouve, sur sur le chant grégorien. Non, alors je suis obligé de vous dire que pendant que je parle, ils font des gestes parce que voilà, je vais vous dire toute la vérité. Monsieur Jean-Louis Rigade, qui est un pourrisseur parmi les pourrisseurs, a offert une bouteille de vin pour cette émission. Je me suis formellement opposé à sa consommation dans le studio. Et pendant que je vous parle, avec le sérieux qui est le mien, mes jeunes camarades se livrent à des tentatives assez basses.
Détournées. Radio Courtoisie, 0,7 grammes mégahertz.
95,6 grammes par... Enfin, allez. Non, je précise qu'on est tous parfaitement à jeun, mais je voudrais bien que ça continue jusqu'à la fin de l'émission. Enfin, en ce qui me concerne, je suis à jeun. Et je suis même miraculé, je peux le dire, parce que j'ai pris l'autoroute pour rentrer. Et alors, je voudrais d'ailleurs rapidement envoyer un témoignage d'estime et d'amitié à mes amis routiers. Mais vous ne m'avez pas eu ce coup-ci. Je ne sais pas si j'ai encore mes chances, mais ce coup-ci, ça a été raté. Alors, j'ai tout vu. C'est extraordinaire. L'autoroute, maintenant, devient un des lieux les plus passionnants de la vie quotidienne. La question, c'est de savoir si on va arriver au bout. Et dans quelle étape ? En général, on arrive au bout. Mais j'ai tout vu. J'ai vu, par exemple, un monsieur sortir d'une station-service à 85 à l'heure, ou à 85 ans, je ne sais plus exactement s'il s'agissait de son âge ou de sa vitesse. Et il est sorti, naturellement, du mauvais côté. Il s'est précipité tout droit sur une voiture de touriste espagnol, mais enfin, ça aurait pu aussi être un homme et une femme, je veux dire, tout est possible. Et
il aurait pu être un touriste belge.
Même. Et il les a proprement ratatinés, trois morts, d'un seul coup. J'ai vu ça quand même la chose la plus étonnante que j'ai vue, je vous raconte ça parce que ça m'a surpris, vous allez peut-être pouvoir m'expliquer ce qui s'est passé. J'ai vu un camion écrabouillé contre une cabine de péage, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'il essayait de rentrer sur l'autoroute par les péages de sortie, apparemment. C'est comme ça que j'ai expliqué l'affaire. Alors je me demande s'il ne faudrait pas quand même rectifier un peu le code de la route. Et moi j'aurais une proposition à faire, c'est la seule qui me paraît propre à sauver des vies humaines. Au lieu de diminuer le nombre de grammes d'alcool dans le sang, je propose qu'on diminue le nombre de roues au véhicule. Et par exemple qu'on fasse des voitures avec deux roues, voire une seule roue, ce qui limiterait obligatoirement leur vitesse, parce que la partie sans roue traînerait par terre. Alors on pourrait dire, vous êtes bon conducteur, vous avez droit à deux roues à l'avant, mais pas de roues, mais des patins derrière. Hein ? Qu'est-ce que vous pensez ?
Cela dit, Serge, tu pourras adhérer à cette association qui va bientôt être fondée pour la réhabilitation de la chaise à porteur.
À condition d'être dedans.
Voilà, le problème c'est qu'on n'a pas encore trouvé les porteurs.
C'est ça, c'est que la belle époque, c'est ça, c'est les gens qui étaient dedans.
Et
ce matin, donc, j'étais sur la route et j'ai vécu un moment d'une intense émotion parce que j'écoutais Radio Courtoisie, l'émission passionnante qui a été faite sur les victimes et notamment sur les victimes d'accidents de la route. Il a été largement question de ça. Et il y avait là une dame qui s'appelait Madame Célic, je crois, qui a été une des initiatrices les plus écoutées du combat pour la sécurité routière. Et quand on est au volant sur une autoroute et qu'on écoute cette émission, vous pouvez pas savoir à quel point on trouve que Radio Courtoisie est une radio formidable. D'abord, on fait du 80 à l'heure, du coup. Mais voilà, c'est bien. C'était très très bien.
Je voudrais dire, Serge, et grâce à Radio Courtoisie, d'ailleurs, que Pierre Durand a la palme d'or de la prévention routière, car c'est sa femme qui conduit en plus pendant qu'il essaye de voir, de capter sur le poste la longueur d'onde.
C'est pas tout à fait juste parce que je reviens moi aussi de la Baule, d'où sans doute d'ailleurs on sera appelé tout à l'heure, à l'université d'été du Front National, et j'étais avec Pierre Durand et c'était moi qui conduisais. Mais on a quand même éclaté un pneu et je n'ai jamais vu ça en train de réparer au bord de la route et les camions qui frôlent, mais enfin, au lieu de s'écarter un petit peu.
Ah oui, non, je propose qu'on vote. Une motion d'amitié, de confiance à nos amis les routiers. Vous me direz, je cours pas grand risque parce que, à mon avis, c'est pas des gros passionnés de Radio Courtoisie, et ceux qui écoutent Radio Courtoisie sont forcément les bons. Donc ça n'est pas aux auditeurs routiers de Radio Courtoisie que ce message s'adresse, c'est à ceux qui n'écoutent pas cette radio, mais qui écoutent les radios d'imbéciles. C'est qui ne manquent pas sur la bande FM, un peu, ainsi que j'ai pu le constater à travers...
On s'adresse pas à Tarzan, mais à Chita.
Chita. Alors donc je disais que la deuxième partie de l'émission serait consacrée au chant grégorien et nous recevrons Yves Gir, qui est le directeur d'une émission hebdomadaire consacrée au chant grégorien, qui est passionnante d'ailleurs. Ça n'est pas, comme le disait tout à l'heure mon ami Paul Robert, parce que nous entre-invitons à Radio Courtoisie. Il a dit ça d'une façon un peu plus indélicate, puisqu'il a dit que c'était le serpent qui se mordait la queue. Non, pas du tout, c'est pas ça. C'est tout simplement que Yves va venir nous parler avec un de ses amis d'un symposium qui va se tenir à Chartres et qui sera un symposium très très ouvert sur le chant grégorien, mais aussi sur Chartres, l'architecture de Chartres, l'histoire du grégorien. Enfin, on en parlera plus longuement. Vous verrez, c'est passionnant. Et on apprendra des choses tout à fait intéressantes sur l'histoire du grégorien, notamment ce que je me suis permis d'appeler son inventeur, ce que Yves Gire n'a pas accepté complètement, parce que c'est un homme précis, c'est pas un journaliste, il dit pas n'importe quoi. Mais vous verrez, on en parlera. Alors avant, on va parler de l'actualité. La première actualité dont on va parler, en dehors de l'actualité générale, c'est notre actualité particulière dont ADG vient qu'ADG vient d'évoquer rapidement. Je ne veux pas dire le fait qu'il est crevé sur l'autoroute avec Pierre Durand, ce qui constitue quand même pas un aspect central de nos préoccupations. Surtout qu'une fois de plus, tu l'as raté.
Oui.
Donc si je comprends bien, tu l'emmènes. En Nouvelle-Calédonie, c'est lui qui, c'est toi qui manque de te noyer, c'est toi qui manque d'être bouffé par les requins, lui en sort toujours vivant, et là, pourtant, sur une autoroute, un pneu qui éclate, normalement, c'est deux viandes froides,
ouais.
À coup à peu près sûr.
Un petit peu plus, parce qu'il y avait Guy Georges qui nous arrive de Nouvelle-Calédonie.
Bon, non, donc, heureusement que ça n'a rien donné, parce que ne serait-ce que pour Guy Georges, quand même, ça aurait été dommage. Alors donc, pourquoi ?
Non, mais très bien.
Non, mais tu l'as raté, avoue.
Oui, je l'ai raté.
On peut vraiment pas te faire confiance. C'est ça que je voulais dire. Donc, cette actualité, c'est l'université d'été de La Baule. Alors, il y a maintenant, dans notre famille, famille élargie, beaucoup d'universités d'été. J'ai moi-même participé à deux universités d'été cet été. L'université d'été légitimiste, qui était très sympathique, une espèce de camp indien comme ça, très très chouette,
jeune
et moins jeune, enfin déjà en tout cas jeune de caractère, riche d'espérance, uniquement d'espérance, ça il faut bien dire, parce que ça se passe pas dans un super hôtel 4 étoiles comme chez les socialistes, ça, il faut être tranquille. Mais c'était dans une très belle maison et c'était extrêmement sympathique. Et puis l'université d'été de Renaissance catholique, qui était d'un niveau exceptionnellement haut cette année. C'est la troisième. Et tous les ans, on monte d'un cran. Je pense que dans quelques années, ce sera une des universités d'été les plus aériennes. Et qui publie tous les ans ses annales. La première université était consacrée à la Révolution et les médias. La deuxième était consacrée à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb et la Reconquista d'Isabelle la Catholique. Et la troisième était consacrée à l'Église et l'État. Je vois qu'Alain fait vraiment une drôle de tête parce que je n'ai toujours pas cédé sur la bouteille de vin.
Et mais on n'a même pas l'eau alors.
Ah, tu veux de l'eau? Bon, ça c'est possible. Ben, je vais lui passer l'eau. Non, je l'ai perdu. Mais, alors, troisième université d'été, l'université d'été du Front National. Alors, qu'en est-il? Où se passe et comment se passe?
Bien, se passe à La Baule, du lundi, c'est-à-dire depuis lundi, où elle était ouverte par Bruno Maigret, jusqu'à vendredi, où Jean-Marie Le Pen fera sa rentrée politique. Et exceptionnellement, il la fera donc cette année de l'université d'été, et non pas de la Trinité, comme il le fait chaque année. Ce qu'on peut peut-être un petit peu regretter, parce que moi j'aimais bien la coutume, le rituel de la Trinité sur mer, qui est un joli port de pêche et qui est en train de rester. Bon, La Baule également doit être un port de pêche, mais j'ai l'impression qu'on y pêche davantage de touristes que le maquereau.
C'est pas spécial à La Baule d'ailleurs.
C'est pas spécial à La Baule.
Bien dire que.
Et voilà, bon, c'est une université très studieuse. Tout le monde n'était pas arrivé, mais j'ai participé à quelques débats. J'en ai suivi quelques-uns. J'en ai animé un autre sur les dom-toms. Et c'était également très très relevé, très brillant. Il y a vraiment des gens de qualité, ça fait plaisir.
Qu'est-ce qu'on cause?
Bah, on cause stratégie et parfois même tactique. Slogan, notre ami Gauthier Guillet a animé un atelier Prime Sautier, comme il est d'ordinaire, sur les slogans. Alors ça donnait un petit jeu de cadavre exquis, qui l'était, exquis, pas cadavérique. Et c'était vraiment très très bien. Des grands orateurs.
Alors, Timmermans, c'était très brillant. Thème, c'est un septennat Le Pen,
le prochain, pas le précédent.
Et... Oui, bah, ça, on a remarqué. Là, merci quand même de la présence.
Oui, mais il faut que les choses soient très claires. Nous sommes un parti d'ordre et nous entendons le rester. Et il se terminera donc vendredi.
On a encore perdu 10 électeurs qui,
non, pas du tout,
qui pensent que... un parti d'ordre, il ne faut pas dire un parti d'ordre. C'est très très mal vu. Il faut dire... D'ailleurs, M. Delors a dit récemment, on voit bien la différence entre le parti de l'ordre et le parti du changement. Alors le parti du changement, on voyait par le contexte que c'était le parti socialiste, le parti qui change tout. Ça fait d'ailleurs 12 ans qu'il change.
14 presque.
14 ans qui changent. Tandis que le parti de l'ordre, c'est le parti de M. Chirac, M. Balladur et de M. Pasqua. Ce qui prouve d'ailleurs que M. Delors dit absolument n'importe quoi.
Ah non, je
l'avais déjà remarqué, mais...
Je trouve pas, parce que dans sa même déclaration, je pense que tout ça, c'est à Lorient qu'il a déclaré ça. D'ailleurs, tout le monde est au bord de la mer, apparemment. Mais il a quand même proposé des choses enthousiasmantes. On sait que le parti socialiste est en perte de vitesse, donc ils ont besoin de choses nouvelles, propres à faire que les militants socialistes soient enthousiasmés. Il a proposé, par exemple, pour que la France soit complètement dérivée à la société, une resyndicalisation. Je trouve que c'est une bonne idée, c'est une magnifique porteuse d'espoir.
C'est exaltant même.
Voilà, exaltant, hein, c'est le mot que je cherchais.
C'est dommage qu'on n'ait plus Segui ni Krasuki, parce qu'il n'y avait qu'eux qui pouvaient donner cette dimension à la fois ludique et jeune à la resyndicalisation du paysage politique français, du PPF.
PPF.
Resyndicalisons le PPF.
Le bras levé.
On s'arrête là. Donc, resyndicalisons le PPF, nous dit Monsieur Delors. À propos d'université d'été, je voudrais quand même remarquer une chose, c'est que c'est jamais à Hénin Liétard.
C'est
assez rare quand même.
Personne ne va m'aubeuge.
Monsieur Liétard, le jour où la France enlevait son dernier soldat du Rwanda, et où...
dans l'histoire de Chita.
Où le jeune Carbonel était tué d'une balle dans la tête, M. Léotard était dans une boîte de nuit à Saint-Tropez.
Dans sa circonscription.
Oui, il passait une inspection, c'est probablement la raison pour laquelle il était là. Il était dans une boîte de nuit à Saint-Tropez. Je le sais parce que je l'ai lu dans le journal, donc c'est forcément vrai. Oui, mais moi, j'étais pas dans une boîte de nuit, puisque je lisais le journal. Donc voilà, on a un ministre de la Défense qui passe ses soirées dans les boîtes de nuit de Saint-Tropez, ce qui est bien rassurant quand même. Des messages,
oui,
Madame Victoria.
Sur l'introduction musicale, elle a beaucoup plu. Bravo, excellente idée. Je pourrais cette fois... écouter l'émission jusqu'au bout. Je n'aurai pas à écouter la météo de Gilles Pétré. Je suis sûr qu'il va pleuvoir.
Ça avait commencé avant qu'on chante. Hein?
Un homme curieux. Je suis curieux de connaître le véritable nom d'ADG.
C'est un douloureux secret
de
famille.
Message personnel.
C'est un douloureux secret de famille. Il ne peut pas le dire, en tout cas pas avant l'émission, parce qu'immédiatement, les polyvalents arrivent, les douaniers et la police.
Monsieur Beckett, expliquez-nous là. Qu'est-ce que ça voulait dire le mot initiatrice que vous venez d'utiliser?
Initiatrice? J'ai utilisé ce mot-là, moi.
Je ne sais pas, c'est ça.
Hein. Oui, j'ai utilisé ce mot-là, mais je ne sais plus à propos de quoi. Enfin, c'était quelque chose de parfaitement avouable. Il n'y avait aucune arrière-pensée. L'initiatrice, c'est peut-être le féminin d'initiateur, c'est ça que. C'est quelqu'un qui initie.
Et alors, si vous pouviez parler l'un après l'autre et dire qui parle à chaque fois, ce serait pratique. Car vous avez l'air d'être au moins quatre et les voix se mélangent.
Exactement, c'est le cas. Nous sommes quatre, alors je répète que nous avons cinq avec Victoria. Enfin, Victoria, risque de confusion est maigre. Donc, Philippe Colombani, qui est, d'ailleurs on va les présenter complètement, qui est élu. il est élu du peuple et non pas le contraire,
oui.
Qui est élu au conseil régional, ADG, qui est également élu. Ils sont artistes aussi. L'un est dessinateur, l'autre est écrivain. Et au milieu, M. Paul Robert, qui n'est ni élu, ni artiste, je pense.
Non, malheureusement. Peut-être heureusement.
Tu édites plutôt les œuvres d'art des autres que,
oui,
que les tiennes propres. Voilà. Donc c'est tout.
C'est tout pour le
les
moment.
Les questions des auditeurs.
Maintenant que vous nous parlez politique.
J'ai un petit message d'un monsieur qui, suite à notre propos, dit qu'il veut créer une association de chaises à porteurs, mais il ne précise pas s'il veut être porteur ou s'il veut être dans la chaise. Enfin, il donne son numéro de téléphone. Je sais pas
bon, si alors, donc, si vous désirez participer à la création d'une association de chaises à porteurs ou de porteurs de chaises, c'est pas très très clair. Il faudra contacter cette émission, vous envoyer un petit mot en disant je veux être porteur ou je veux être porté, et puis on essaiera de mettre en contact les gens qui veulent être portés avec des gens qui veulent être porteurs par l'intermédiaire de cet auditeur.
Oui, je pense que ça pourrait faire de l'effet.
Je ne sais pas si on peut donner son nom à l'antenne.
Peut-être pas, mais
non, non, peut-être pas.
Il vaut peut-être
c'est une affaire qui peut marcher s'il y a beaucoup de petits porteurs.
Oui. Voilà. Oui. Et il vaut mieux être porteur de chaise que porteur de virus.
Alors, qu'à propos de petits porteurs,
oui.
Il y a quand même... Là, on va être en situation d'exclusion, parce que vous savez que le gouvernement, dans son désir quand même de respecter la dignité de chacun, et notamment des personnes non grandissantes, avait interdit le lancer de nains, ce qui me paraissait une mesure de justice, puisque on ne lance pas les géants, je ne vois pas pourquoi on lancerait les nains. Et la question est de savoir, là, si on va pouvoir utiliser les personnes non grandissantes comme porteurs. Parce que, naturellement, ça va poser un problème. Les fesses des portées vont traîner par terre. Alors, je pose la question. Je laisse à nos auditeurs le soin de répondre. Faut-il ou ne faut-il pas exclure, voilà, c'est la question.
Je crois d'ailleurs que les jets de nains sont à nouveau autorisés. Monsieur Pasqua fait quand même du bon travail, quoi oui. Qu'on en dise. Alors que les socialistes avaient interdit le lancer de nains, Monsieur Pasqua a rétabli le lancer de nains, bon au maigret,
enfin,
et prudent.
Moi, j'en suis resté à ce vieux principe qu'on m'avait enseigné à l'école communale, jeu de nains, jeu de ville.
Surtout si on a affaire à un ingrat.
En plus, on va peut-être écouter un peu de musique là-dessus.
Mon petit François, mon petit François, toi vouloir que je t'apprenne, comme à d'autres fois, chez Falset à la Prussienne, ou bien à la Tyrolienne, écoute bien, la leçon de ton bon ami, regarde bien, comme il fait la grosse Marie, tu mettre ton pied là, trin, 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 serre-moi mieux que ça, va flim, flou, l'air crasse, niche, fiche, claque, marque-t-on le monsieur, ah, que ton tête est dure, trin, 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 la, 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 trin, 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 la, 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 la. Sur les ports du Rhin, à Vienne, à Berlin, j'ai connu l'armée française. Plus d'un caporal, plus d'un général, avec moi ne t'en déplaise. De Falset était bien aise, j'avais feint en des grosses couleurs. J'étais tendu, un peu sournoise, il m'appelait, toutes ces messieurs, la séduisante Strasbourgeoise. Les bras plus près du corps, trin, 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 on dirait que tu dors, face, flin, flou, der, crasse, ni fiche, plaque, marque-t-on le monsieur, ah, que ton tête est dure, trin, 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 la, 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 trin, 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 la, 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 la. J'ai connu Moreau, Victor Auchereau, quand j'étais à Varsovie. J'ai connu Murat, avec Masséna, chez Falset à Cracovie. C'est le beau temps de ma fille, à Vienne un jour, Napoléon m'avait rendu bien glorieuse. À mon falseur, il dit dragon, quel grenadier que ta falseuse. Prends ton l'air crassilleux, vas-y, trin, 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 trim, trim, trim. Fais-moi ton les douze yeux, va flim, floun, der grâce, nice, fiche, plaque, marque ton le mesure, oh, que ton tête est dure. Trim, 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 la 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 la, la 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 la, trim, 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 la 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 la, la 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 la. J'étouffe de chaleur, ça me tombe sur le cœur, je vais retrouver mon capitaine. Non, tu falseras, je te dis que je veux pas, je te dis qu'il faut que je t'apprenne. Le temps était l'ancienne, un petit tour, ça va finir, je veux m'en aller. Je veux pas qu'on me tienne, mais si François, je veux pas partir, me fla bloquer par l'Alsacienne. François, mets ton pied là, trin, 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 trin. C'est beaucoup mieux des chafasses, flin, flon, der, krat, mich, fich, clac, bravo, c'est en mesure, ton tête est bien moins dure. Trin, 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 la 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 la, la 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 la, trin, 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 la 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 la. La 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 la.
C'était la chanson de danse du petit François de Pierre Bertin qui a soulevé des tas de rires et grillards dans le studio de la part de Paul Robert qui a visiblement compris les paroles et d'ADG qui a ri de confiance.
Il a dit un sens caché.
Oui. Cela dit, on les comprend pas tellement les paroles en dépit de la parfaite diction de Pierre Bertin. Et comme d'autre part, c'est Philippe Varley qui nous a apporté ce disque, il y a le cachet,
l'imprimatur.
Et donc je n'ai aucun remords de l'avoir diffusé, d'autant que ceux qui n'aiment pas ça auront droit à 1h30 de Grégorien à partir de 7h30. Donc là, ça c'est quand même pas le même genre. Faut bien reconnaître. Il y aurait peut-être un travail intéressant à faire de mise en parallèle entre la leçon de danse du petit François et... Mais non, je crois que même... La valse, la leçon de valse.
C'était plutôt une leçon de valseur.
Mais ça, c'est une chanson en tout cas qui introduit, je trouve, si j'ose dire, parfaitement le sujet de l'actualité que je vais vous proposer maintenant.
Carlos.
Non, je pensais aux islamistes.
Ah bah très bien.
Parce que j'ai appris, comme vous tous, puisque vous, comme moi vous écoutez la radio, je pense.
Oui.
Sur
95.6. Sur
95.6. Grave, non, mégahertz, pardon.
Oui.
J'ai appris que 20 des 26 avaient été expulsés de France. Alors d'abord, ça appelle quand même pas mal de commentaires, ça, parce que si on se met à les expulser, j'en dirai pas plus, mais voilà. Mais ils les ont expulsés au Burkina Faso. Alors, il y a deux questions qui me paraissent se poser d'urgence. C'est pourquoi 20 sur 26 ? Et pourquoi pas 2 millions sur 2 millions ? Et d'autre part, pourquoi au Burkina Faso ? Est-ce que quelqu'un a une idée là-dessus ?
Ben, je sais pas. C'est peut-être un beau lieu de villégiature, moi. Je sais pas.
Non, mais alors, je pose cette question-là parce que je trouve qu'on se comporte avec l'Afrique d'une façon curieuse. Sauf erreur de ma part, je dis bien sauf erreur de ma part, l'Afrique est un continent indépendant maintenant. Hein ? Alors, j'entends des bruits dans le studio, il y a un problème, non ? Bon. Non, ce continent indépendant est constitué de pays indépendants. Le Soudan héberge M. Carlos. On va au Soudan, on envoie... si j'ai bien compris, un agent de la DST au Soudan, je vous rappelle quand même que la DST n'a rien à faire à l'étranger. La DST, c'est la défense et la sécurité du territoire. C'est pas du territoire soudanais, c'est du territoire français. Donc aucun agent français, quel que soit le respect qu'on peut porter à la DST, force éminemment efficace, aucun agent de la DST n'a le droit ni moral, ni matériel, d'opérer dans un territoire étranger, fût-ce le Soudan. Donc on envoie un agent de la DST au Soudan, et même des agents, et il ramène Carlos, que les Soudanais nous ont donné.
Que je me permette de dire que peut-être que le commandant Marchand est vengé.
Oui, peut-être, oui. C'est un peu tard quand même, il me semble. Alors,
ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi la France en veut à l'auteur de Big Bisou.
Oui, alors écoute ça, on t'expliquera ça plus tard. C'est terrible avec ADG. Il faut que je vous explique quand même que ADG passe.
Le fils de Françoise Dolto.
Oui, ouais, bon.
Passe à peu près la moitié de sa vie dans des pays où ils n'ont même pas la radio. Ils n'ont jamais vu un transistor de leur vie, probablement.
C'est et l'auteur donc, de la case de l'oncle Tom.
Voilà.
Bien, ça, Dom, on a rajouté Dom après, mais.
Et quand il rentre de Nouvelle-Calédonie, il faut tout lui expliquer depuis le début. Et il comprend pas toujours. Alors donc.
On a arrêté déjà Chantal Goya et Jean-Jacques Debout une semaine. La semaine d'après, c'est Carlos. Est-ce qu'on va tondre Dorothée la semaine prochaine, à l'occasion de la libération? Je sais pas, moi.
Je voudrais préciser à DG que Chantal Goya ne fait pas de peinture.
Rien à voir avec la peinture, monsieur. Alors, dans ce Carlos-là, c'est un autre.
Ah bon. Et que Jean-Jacques Debout ne veut pas être porteur de chaise à porteur.
De porteur, d'accord. Très bien. Alors, donc, non, sérieusement.
Bah oui. Et qu'il n'a rien à voir avec Aillier, c'est l'acier, non, c'est pour ça.
Si je pouvais aller jusqu'au bout de mon raisonnement, je pense que ça arrangerait l'émission. Enfin, ça pourrait pas lui faire de mal, en tout cas, c'est certain, vu le degré où on en est arrivé. Je disais que je trouve quand même curieux qu'on aille au Soudan et qu'on dise aux Soudanais, toi le nègre, donne-nous Carlos. Ensuite, on va au Burkina Faso, qui est l'ancienne Haute-Volta, si je ne m'abuse.
Exact.
Et dont la devise est admirable. La devise du Burkina Faso, c'est quelque chose comme...
Quand il n'y a plus de roux coucou, il y a du roux kéké.
Non, c'est...
Non.
Pour la vitale de la révolution, tous ensemble demain. Ou quelque chose comme ça. Enfin. Alors
bien,
donc...
C'est bien.
Et on, mais oui, c'est bien. Et on va au Burkina Faso...
C'est Haute-Volta qui, du reste, produisait toute l'électricité...
Toute l'électricité africaine, c'est ça. Oui. Et on va au Burkina Faso et on dit au Burkina Fassien... Alors là, au Burkinabé, d'ailleurs, je crois qu'on dit même. On dit au Burkinabé... Toi le nègre, on va te filer 20 terroristes islamistes parce qu'on n'en veut plus en France où ils font trop de dégâts. Qu'est-ce que c'est que cette politique de néocolonialisme ?
Enfin, je suppose qu'on a dû faire au préalable un appel d'offres auprès des pays islamiques. Or, le Burkina Faso est, je crois, un pays islamique.
C'était... Je sais pas, ça. C'était la deuxième question qui va en amener une troisième. Pourquoi n'a-t-on pas envoyé ces islamistes dans les pays où ils sont forcément bienvenus, c'est-à-dire l'Iran, l'Arabie Saoudite, juste à gauche? C'est une vieille blague belge. L'Arabie Saoudite, c'est juste à gauche, c'est ça? Je suis obligé d'expliquer parce que l'ADG était vague.
Il y a de mauvais esprits qui répondent par la Mecque, mais ça,
oui. Pas. Mais alors, ce que je veux dire, c'est pourquoi on ne les renvoie pas dans les pays islamistes où ils seraient comme des poissons dans l'eau? Le Burkina Faso, c'est pas un pays islamiste, c'est pas un pays à forte... où on aurait pu les envoyer au Soudan, où ils sont assez portés sur ce genre de choses. Et en échange de Carlos, on aurait pu... Alors voilà, tiens, donnez-nous Carlos, on vous file 20 terroristes islamistes. 20 contre 1, vous y gagnez. Et même si vous en avez... Si vous en voulez 2 millions, on peut vous livrer contre un seul. Et même à la limite, vous gardez Carlos et on vous en donne 2 millions. Ils auraient peut-être été contents. Est-ce qu'on a pensé à leur proposer ça? Je suis pas certain. J'en appelle au conseiller de M. Pasqua. Je me demande si cette affaire a été conduite d'une façon bien sérieuse. Mais en tout cas, donc pourquoi n'a-t-on pas envoyé ces gens-là dans des pays islamistes? Deuxième question, corollaire. On nous dit à longueur de journée que la victoire du fils, ou le terrorisme du fils en Algérie, va nous amener... 100, 200, 500, 600 000 intellectuels algériens. D'ailleurs, entre parenthèses...
Il y a trop d'intellectuels dans ce pays, déjà.
Quand même, là, il y a un truc qui devient inquiétant, c'est que c'est un pays qui, en 30 ans, est passé d'un niveau de vie tout à fait correct à un sous-développement endémique, mais avec 600 000 intellectuels. Alors, je me demande si le sous-développement ne serait pas lié à la présence d'intellectuels. Hein ? On peut se poser la question. Parce que dans un pays où il y a tellement de gens qui travaillent avec leur cerveau, il ne doit pas y avoir beaucoup de gens qui travaillent avec leurs mains. C'est ce qu'on se dit. D'ailleurs, c'est moins fatigant de travailler avec son cerveau. Non ? Si, je vous assure. Beaucoup moins fatigant. Moi, d'ailleurs, avec le cerveau, même quand on en a très peu, on arrive à faire des choses. Et alors, question. Ces 600 000 intellectuels algériens, pourquoi veulent-ils absolument venir se réfugier en France alors qu'il y a des pays... qui sont des pays arabes, autant que l'Algérie, voire plus, car il faudrait peut-être dire au passage que l'Algérie n'est pas vraiment un pays arabe, mais ça nous emmènerait trop loin dans la conversation. C'est pas non plus vraiment un pays musulman.
Disons des pays islamisés et arabisés.
Voilà, islamo-arabisés, c'est voilà. Ça, Philippe. Alors, il y en a d'autres. il y a un pays qui s'appelle la Tunisie. Moi, je suis sûr que si la Tunisie, qui visiblement est prête à accueillir des intellectuels, surtout quand ce sont des intellectuels arabisants, apprenait qu'il y a 600 000 intellectuels algériens qui veulent venir meubler les universités, les hôpitaux, les écoles, les bibliothèques, tunisienne, il sera enchanté. Enchanté, positivement. En plus, la Tunisie a de gros problèmes avec les islamistes, et donc il serait content de voir se renforcer les rangs des anti-islamistes.
Je remarque d'ailleurs que le choix de la Tunisie est judicieux, dans la mesure où au Maroc, les intellectuels algériens ne sont pas acceptés à Marrakech.
Ou pour l'instant. Mais non, c'est au Maroc, ce sont les gens du fils qui sont mal vus. Mais si, parce que c'est à la suite d'un attentat commis par le fils que le roi du Maroc a décidé de fermer ses frontières avec l'Algérie. D'ailleurs, on va pouvoir lui vendre du fil de fer barbelé. On pourrait lui fourguer les vieux restes de la ligne Maurice. Nous irons pendre nos djellabas sur la ligne Maurice. Ce serait pas mal comme chanson. Et moi, je propose, pourquoi on vendrait pas ? Tiens, c'est quand même toujours à nous la ligne Maurice, non ? On l'a laissé en dépôt, mais...
Non, elle était vendue déjà, je crois qu'il y avait déjà une escroquerie.
Monsieur Joannovici, non ?
Non, c'est après. C'est après, il y avait Joatia.
Dommage,
il y avait... Je me souviens.
C'est dommage. Voilà une belle opération ratée encore. Monsieur Pasqua, vous ne serez pas gagné de l'argent. Hein. Bon, enfin, bref. En tout cas, le roi du Maroc, je crois, ne verrait aucun inconvénient à ce que des intellectuels algériens viennent aussi au Maroc. En tout cas, même s'il voyait un inconvénient, il ne pourrait pas le dire devant la communauté internationale, parce que ça serait mal vu. Et je précise d'ailleurs que nous qui sommes ici autour de ces micros, nous ne voyons aucun inconvénient à l'arrivée de 600 000 intellectuels algériens en France. C'est pour eux qu'on dit ça. Parce qu'en France, regardez le temps qu'il fait. Quand il pleut pas, il fait froid. Quand il fait froid, pas froid, il y a du vent. Et quand il fait chaud, il fait vraiment un chaud très très désagréable. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, la France est un pays d'imbéciles, puisque le directeur de je ne sais quelle revue algérienne récemment parlait d'un film, et c'est raconté dans le journal de La Griffe de Bernard Anthony, donc le directeur d'un journal algérien parlait d'un film, et il a fait ce commentaire critique, c'est français, donc nul.
Par essence,
voilà, donc c'est français, donc nul. Alors, moi je trouve dommage que des intellectuels qui sont certainement des gens très 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 brillants, car il faut penser à ce qu'a apporté l'université algérienne depuis 30 ans à la connaissance dans le monde moderne. Il faut penser à ce que les chercheurs de la médecine algérienne ont apporté à la médecine en général. Il faut penser à ce que les physiciens nucléaires algériens ont apporté à la physique nucléaire. Ils ont décroché depuis 30 ans, je ne sais pas combien de prix Nobel, je ne veux même pas compter.
Les écrivains, les cinéastes.
Les écrivains, les cinéastes, les... enfin tout ça. Donc, ça serait dommage que des gens d'une qualité aussi brillante viennent se désosser, se dérélicter dans un pays comme la France, un pays pourri. Il fait froid.
Surtout qu'ils ne trompent même pas, peut-être, à l'abri du fils en France.
En plus, il ne peut pas garantir. Vous vous rendez compte, M. Pasqua jette son filet, il en remonte 26. Et s'il avait jeté son filet une deuxième fois, il en aurait peut-être amené 52. Va savoir. Alors, ce sont des gens dangereux. D'ailleurs, ils ont prévenu. Ils ont dit, en France, on pourrait faire des choses si on voulait. Donc, non, moi, j'ai dit aux intellectuels algériens qui nous écoutent, chers amis...
Ça dépend, parce que peut-être que si on leur envoyait, nous, 600 000 intellectuels français, mais est-ce qu'on va trouver 600 000 intellectuels français ?
Eh bien, c'est ça le problème. Français...
Non, parce qu'eux, ils les ont, ça, c'est sûr, puisque tout le monde dit qu'il y a 600 000. Bon,
donc,
ils les ont, je veux dire. Ils n'ont aucune raison de mentir.
Non, c'est pas le genre, en plus.
Donc, mais nous, je ne sais pas si on pourrait arriver à produire 600 000 intellectuels français. Enfin, en tout cas...
À les trouver, si. C'est pour les transporter qu'on va avoir du mal. Parce que, d'abord, on n'aura pas les stades pour les faire attendre.
Ah.
Et puis on n'aura pas les camions pour les transporter, il faudra demander de l'aide. Donc 600 000 intellectuels français en Algérie, mais c'est pas le sujet d'ailleurs.
Ah bon, d'accord.
C'est complètement idiot ce que tu dis.
Bon,
en revanche, alors j'en reviens à ça, pourquoi ne propose-t-on pas à ces 600 000 intellectuels algériens de rester dans les pays arabes ? Et surtout, pourquoi ne le demandent-ils pas ? Ça, c'est un grand mystère.
Est-ce que l'un de vous, messieurs, a une réponse?
Mais si ça se trouve, il ne demande pas d'ailleurs, parce que moi je lis dans les journaux, effectivement, une victoire du fils ferait affluer en France, et tout le monde décrit ça comme une fatalité, c'est-à-dire que les éditorialistes des magazines français disent, voilà, ça arrive en France, et d'ailleurs ils disent, ça serait une catastrophe, ça posera des problèmes, disent-ils, qu'on n'ose pas évoquer, ajoute-t-il.
Bon, ça... à mon avis, ce sont des alarmistes, parce que nous sommes bien d'accord, ça ne poserait aucun problème.
Ça pose aucun problème.
Les intellectuels.
Les intellectuels.
Parce qu'un intellectuel ne ferait pas de mal à une mouche. D'une part. D'autre part, ça ne changerait pas grand-chose à la situation actuelle, puisque d'après ce qu'on sait en ce moment, d'après les chiffres qui circulent, il y en a plusieurs centaines d'intellectuels qui arrivent tous les jours en France. Et Le Point avait même publié il y a quelques semaines une information au terme de laquelle, parmi ces centaines d'intellectuels, se glissaient quelques intellectuels d'un genre un peu particulier, qui faisaient partie, si tant est que ça existe, de ce qu'on n'ose pas appeler la pègre transméditerranéenne. Des gens qui ont choisi de vivre d'une façon un petit peu originale par rapport à la règle, et qui, eux, venaient en France parce que là-bas, le fils leur coupe les oreilles en pointe.
Oui.
Ce qu'ils trouvent très désagréable, et ils préfèrent donc venir s'installer en France. Alors Le Point expliquait que la police avait remarqué que ces gens-là venaient s'installer dans des squats de la banlieue parisienne. Donc, l'immigration est déjà commencée, le transfert d'intellectuels est déjà bien entamé, et au fond, ça ne serait qu'une accélération d'un processus qui existe déjà. Mais c'est pas du tout...
Serge, ce qui est très inquiétant quand même, c'est qu'on s'aperçoit que la France, en définitive, est un des seuls pays au monde, à soutenir le FLN. Donc on s'aperçoit que les États-Unis ne veulent pas entendre parler du gouvernement actuel algérien.
Oui.
Alors, c'est quand même très curieux, parce que ce sont quand même des gens, on a été un petit peu en guerre contre eux, même si on ne veut pas appeler ça une guerre. Et puis, tout d'un coup, on est leurs meilleurs alliés. Alors, pourquoi?
Ben, moi, j'ai la réponse. J'ai la réponse.
Parce que les Américains sont très clairvoyants, d'abord. Ils préfèrent soutenir le père Aristide en Haïti,
oui,
qui est dans leur zone d'influence. Ça c'est quand même un acte démocratique, et nous avons nos actes démocratiques. Il vaut mieux soutenir le FLN qui a perdu les élections, bien entendu, avec lequel nous avons de vieux liens de fidélité.
Oui.
Les Américains ont une grande expérience, puisque actuellement ils accueillent 2000 intellectuels cubains tous les jours.
Un auditeur nous dit que nos bavardages sont superficiels. J'ai vu ça du coin de l'œil sur le Victoria veut encore manger irlandais.
Vous avez le droit, mais moi j'attends que vous me donniez la parole. Il chahute.
Non, je voudrais dire. Vous savez, il y a une façon de dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas. Voilà ce que je veux dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire d'une façon sérieuse. On ne peut pas dire certaines choses parce que c'est interdit. Voilà. Donc, si vous voulez bien nous écouter avec votre discernement, vous comprendrez que ce débat n'a rien de superficiel.
Il faut les choses qu'on dit.
Les choses qu'on dit ne sont pas des imbécilités. C'est pas pour rire. On dit des choses graves et sérieuses. Alors là, je vais dire une chose grave et sérieuse, d'une façon grave et sérieuse. La raison pour laquelle tous les gouvernements français, depuis des années, ont montré au FLN toutes les faveurs possibles, c'est parce que tous les hommes politiques français, pardon, pas tous, c'est parce que depuis 30 ans, de très nombreux hommes politiques français, de tous les partis, et notamment des partis de gauche, ont été corrompus par le FLN, ont été achetés par le FLN, se sont fait graisser la patte par le FLN. Ce qui fait que maintenant, ils disent, si on les laisse se faire virer d'Algérie, ils vont venir chez nous et ils vont tout raconter, comme font les anciens de la Stasi qui racontent tout, on en parlera tout à l'heure. Et ça, ils ont très très peur de ça. C'est pour ça que tout parti confondu, de la gauche à la droite avec des gros guillemets, on vous dit, mais non, le FLN, finalement, c'est pas si terrible que ça. Parce que figurez-vous que quand on donne 6 milliards à l'Algérie, comme on l'a fait récemment, il faut pas croire que c'est la France qui donne 6 milliards à l'Algérie. La France envoie de l'argent à l'Algérie, les dirigeants algériens volent cet argent, le mettent sur des comptes en Suisse, et ristournent une partie de ce fric à des dirigeants politiques français ou à des partis politiques français. Voilà ce qui se passe depuis des années avec l'argent que la France donne à l'Afrique. Tout le monde le sait. Monsieur Péan a écrit un livre là-dessus formidable, qui raconte tout sur la façon dont ça se passe et qui implique directement, vigoureusement et nominativement des personnalités extrêmement élevées de la politique française dans la majorité et dans l'opposition. Donc c'est une histoire de gangsters, c'est une histoire de bandits qui se tiennent par la barbichette. Si tu me soutiens pas, moi je vais dire que je t'ai filé du fric. Voilà. C'est pour ça qu'on soutient le FLN. Si on avait donné de l'argent au fils, ils soutiendraient tous le fils. Mais comme ils ont donné l'argent au FLN, ils sont obligés, et que le FLN leur a ristourné ce fric, ils sont obligés de soutenir le FLN. Et quand ils ne peuvent pas soutenir, quand ça se passe par exemple, comme avec monsieur, comment s'appelle l'empereur
Napoléon.
Non, l'autre. Le nègre.
Je ne connais pas l'autre. Ah, Bokassa.
Bokassa.
Papa Bok.
Comme lui, on ne pouvait décemment pas le maintenir aux affaires, on a tout simplement essayé de le faire tuer. Pourquoi ? Parce qu'il faisait peur ? Parce qu'il gênait ? Pas du tout. Parce qu'on avait peur qu'il parle. On avait peur qu'il parle et qu'il dise « Mais moi, l'argent, je l'ai donné. Je l'ai donné à tel ministre et ça s'est passé à telle date. » Bon, ce qu'il fait d'ailleurs, est-ce que personne ne peut écrire ? Parce que malheureusement, il a aucune preuve, il a aucun document. Et par conséquent, on risquerait d'avoir de gros ennuis. Mais voilà la raison du soutien de tous les partis politiques au FLN, c'est parce qu'ils en ont tous croqué.
C'est évident aussi que les relations que nous entretenons avec l'Afrique à titre gouvernemental sous la Ve République sont un enjeu électoral par les sommes qui transitent entre l'aide au développement de ces pays du tiers-monde et ce qui doit retourner dans les caisses des partis politiques. Il est évident que si on faisait la totalisation de ce qui a été déversé depuis plus de 30 ans en Afrique et le résultat que ça a donné, on s'apercevrait que la Lozère est véritablement une région prospère.
Oui. Alors, des appels d'auditeurs, des questions d'auditeurs, Victoria ?
Non, mais ça c'était pour alimenter ce que vous étiez en train de dire.
Alimentons.
Est-ce que le fils menace les porteurs de valises du FLN ?
Pour l'instant, non.
Et
mais peut-être que l'idée leur en est pas venue.
Encore que M. Rocker ait quitté sa mairie de Conflans-Sainte-Honorine. C'est peut-être un début.
Il a peur d'être noyé.
Il voit la voile.
Voile maintenant.
Oui, c'est avant, il faisait du voile à vue, maintenant il fait du voile à voile.
Est-ce que l'annonce des intellectuels algériens devant arriver en France n'est pas à prendre sur le même plan qu'une immigration massive du Rwanda qui n'a pas eu lieu après le retrait de la France?
J'ai pas le souvenir qu'on ait parlé d'une immigration massive du Rwanda, parce que je voudrais demander à cet auditeur simplement d'ouvrir l'atlas de l'Afrique de Bernard Lugan, ou tout autre atlas, mais enfin le meilleur c'est quand même le Bernard Lugan, et il constatera que c'est quand même pas tout à fait aussi facile d'arriver du Burkina, du Rwanda, que d'arriver d'Algérie. Pratiquement, d'Algérie, on peut venir avec une felouque.
Hein? Et puis, il y a peut-être moins d'intellectuels au Rwanda aussi.
Il y a une chose qu'on pourrait dire. Venez, mais à la nage. Et tous ceux qui arrivent, on les recevra avec plaisir. Hein? Non?
Qu'est-ce que font les Américains avec les Cubains?
Avec les Cubains.
Et puis on a affaire à une société pastorale au Rwanda, dont la démographie, la population est quand même beaucoup moins importante que ce qui se passe en Afrique du Nord. En tout le Maghreb et particulièrement en Algérie. Et lorsqu'il y a des transferts de population pour des causes X ou Y, révolutionnaires, guerre tribale ou autre, on s'aperçoit qu'effectivement ça déborde sur les frontières de l'État limitrophe. Mais ça ne va jamais au-delà.
Mais en tout cas, j'ai pas le souvenir qu'on ait annoncé aussi dramatiquement que l'immigration des intellectuels algériens une arrivée massive d'intellectuels ou de manuels rwandais. Ça, j'en ai pas le souvenir.
Mais je peux je comprends rien. Manuel, c'est pas espagnol.
Non, ça va. Donc, il faut penser à lui faire un cyclage parce que il va encore. Comme Carlos,
c'était un rodage de soupape. Voilà.
Alors, dans les questions qui intéressent vos auditeurs, que pensez-vous de la désinformation? Quelle en est sa définition? Peut-on citer des cas précis? Voilà, vous êtes parti sur un vaste sujet.
Non, mais il me faudrait. J'ai une conférence d'une heure sur le sujet, qui est toute prête, mais je ne l'ai pas apportée, mais. Je peux faire une émission sur la désinformation, oui, effectivement. Je vais vous donner un exemple de désinformation, ou plutôt de manipulation de la politique quotidienne pour des raisons strictement médiatiques. On en parlera tout à l'heure dès qu'on aura répondu. Non, il n'y a pas d'autres questions qui rentrent dans le sujet. Je voulais parler donc de l'affaire des islamistes arrêtés par Monsieur Pasqua, qui nous prend vraiment pour des pélicans. C'est-à-dire qu'il croit qu'on est vraiment capable de valer n'importe quoi.
Je pensais qu'elle nous croyait lassés d'un long voyage.
Oui, mais on est aussi un peu lassés d'un long voyage.
Mais enfin, on peut évoquer Serge dans un domaine alors qui touche le fait divers, mais au moins à titre de manipulation des masses médias, véritablement, ce que le rôle de la télévision avec l'affaire du Mont-Saint-Michel, on en parlait tout à l'heure avec ADG. On se dit quand même, les télévisions qui ont filmé il y a quelques années une pauvre petite fille qui était en train de mourir engloutie par des boues. Je ne sais plus dans quel pays d'Amérique latine, ces mêmes télévisions, lorsque la chose se produit au Mont-Saint-Michel,
parce que c'est un amateur,
jouent les moralisateurs, et aujourd'hui, enfin, ou le surlendemain, produisent le film Super 8 qui a été filmé depuis le Mont-Saint-Michel, où l'on voyait la maman de cette petite enfant disparaître dans les sables mouvants.
Bon, alors, voilà
un exemple même de la putasserie, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre mot à l'égard de radio-télévise et du courant moralisateur qu'il dégage en général.
Parce qu'il faut rappeler quand même, alors cette histoire, pour les auditeurs qui n'en auraient pas eu l'écho, une noyade se produit dans la baie du Mont-Saint-Michel, des témoins filment la noyade d'une dame qui se noie en essayant de sauver une petite fille.
Mais de loin.
De loin, bien sûr. Immédiatement le lendemain, on dit scandale au Mont-Saint-Michel, ils ne sont pas intervenus, ils ont filmé. Alors je pense qu'on s'attendait probablement à ce qu'ils plongent directement des remparts pour essayer de sauver la dame. Qu'est-ce que vous vouliez qu'ils fassent d'autre, qu'ils regardent? Et maintenant, pour 99% des citoyens ou des quidams, le regard est immédiatement accompagné d'un film vidéo, parce qu'on a sa caméra à la main et qu'on pense tout naturellement qu'on va gagner le gros lot, puisque c'est courant et qu'on a vu que, par exemple, le gars qui avait filmé la scène à Los Angeles des policiers battant un nègre presque à mort avait rapporté à son auteur plusieurs millions de dollars. Donc le réflexe naturel de quelqu'un qui a une caméra, c'est pas simplement de regarder pour assister à une scène à laquelle il ne peut absolument rien, évidemment, c'est de regarder et de filmer, première chose. Deuxième chose, on invente que ces gens-là n'ont pas appelé les secours, alors qu'on apprendra le lendemain qu'ils ont bel et bien appelé les secours, et qu'on verra la capitaine des pompiers, d'ailleurs, qui s'appelle Sœur Emmanuelle ou Sœur je ne sais comment. Mais enfin, cette bonne sœur en uniforme de pompier, c'était quelque chose de charmant et pittoresque. Ça choque beaucoup Philippe, dont la fille est bonne sœur, mais jamais en capitaine de pompier. Mais moi, j'ai trouvé ça sympathique. Surtout qu'elle avait une bonne tête et qu'elle disait des choses intelligentes.
Tout à fait sensées,
elle a dit, écoutez, on ne peut pas savoir si on l'aurait sauvée. Le fait est qu'on ne l'a pas sauvée, voilà, point à la ligne. Mais on a donc fabriqué un faux scandale. Et le soir, on a vu je ne sais quel animateur de télévision dire... naturellement, nous ne montrerons pas ces images, car nous ne faisons pas de ce genre de choses. Moyennant quoi, il n'avait pas hésité une seule seconde à montrer 97 fois l'accident de Senna, et il n'avait pas hésité à filmer, comme tu le dis, Philippe, pendant des heures, l'agonie de cette pauvre gosse.
Je ne pense pas que ce soit sur la chaîne où il y ait des fausses interviews de Fidel Castro, quand même.
Non, c'est, je sais pas, non, c'est pas le genre.
Non, c'est parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas offert assez.
C'est possible. Et le lendemain, ils ont diffusé le film tranquillement, après avoir dit qu'ils ne feraient surtout pas ça parce qu'on ne mange pas de ce pain-là. Comme les autres se sont dit, ah bon, vous ne mangez pas, nous on mange, parce que ça fait évidemment de l'audimat. Ils ont diffusé. Donc ça, c'est sûr, effectivement, tu as utilisé le mot et tu as eu raison, bien qu'on soit sur Radio Courtoisie, la putasserie de ces gens-là. Ça, c'est impardonnable. Mais quand je parlais de l'affaire des islamistes, je voulais parler d'autre chose. Systématiquement, depuis des années, quand on entre en période présidentielle, M. Pasqua nous fait un plan. Il fait son petit numéro. Alors cette fois-ci, son petit numéro, c'était terroriser les terroristes. Après, c'était l'histoire de la grotte d'Ouvéa. Après, c'était je sais pas quoi. Et là, c'est cette histoire de 26 islamistes. Alors,
Et Carlos.
Alors il faut quand même s'arrêter. Mais Carlos, là, je crois qu'il a... C'est une histoire qui fait tout à fait penser à la blague du lanceur de grenades. Tu sais, où il faut compter jusqu'à 6. Et pour compter le 6e, le gars coince la grenade entre ses genoux. Parce qu'il a que 5 doigts à la main. Je crois que M. Pasqua, là, il a une grenade découpillée entre les genoux. Et ça va certainement pas lui faire plaisir quand elle va exploser. Mais on en parlera peut-être plus tard. Pour l'instant, cette histoire des islamistes, qu'est-ce que c'est ? Dans un pays où il y a 8 millions d'immigrés, dont à peu près 2 millions d'immigrés musulmans. Ils trouvent, au minimum, hein, les chiffres que je donne sont des chiffres toujours minimaux, parce que c'est pas la peine d'aller chercher la bagarre. Ils trouvent 26 islamistes. Moi, s'ils m'avaient demandé, je l'aurais emmené dans des endroits où ils en auraient pu arrêter 800 d'un coup. 800, minimum.
Oui, qu'il faut dire quand même que dans ce pays, on construit des mosquées toutes les semaines.
Et puis, il y a des rues dans Paris où, par exemple, le vendredi matin, vous avez 250 derrière qui pointent vers le soleil. Enfin, si c'est le matin, plutôt, ils pointent vers le couchant. Pasqua aurait pu faire beaucoup d'économies. Au lieu de déranger des centaines de policiers avec des voitures et tout, et d'aller arrêter 26 islamistes ou prétendus tels à domicile, il aurait pu en arrêter 250 en mettant un quart de CRS à un bout de la rue et un escadron de CRS à l'autre bout et faire monter tout le monde dans le camion. Et on les emmenait à la campagne. Mais oui, mais c'est ces méthodes. Et on les emmenait à la campagne et on les enfermait. Donc il ne s'agit pas du tout d'éliminer la réalité ou la fausseté de la présence d'un mouvement islamiste en France. Il s'agit de faire de l'agitation. Et ce qui prouve la nullité de M. Pasqua, nullité crasse, hein. Je sais qu'on a beaucoup d'auditeurs qui aiment M. Pasqua. Moi, c'est pas mon cas, vous l'aurez peut-être remarqué. Et tant que je ferai cette émission, on dira dans cette émission, et uniquement dans cette émission, du mal de M. Pasqua, parce que je pense que c'est un homme dangereux et malfaisant. Et la sottise de M. Pasqua fait qu'il en arrête 26. Et sur les 26, il y en a un qui est évidemment étranger, au moins, hein, qui est évidemment étranger d'une façon absolue.
Étranger, c'est le mot.
C'est le cas de dire. À toutes ces histoires, c'est le petit pizzaiolo de Lille ou de Lamborsa ou je sais pas où. Alors lui, il a été arrêté, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il a prêté sa voiture à un gars qui était soupçonné d'être islamiste. Et ce type est en train de faire une grève de la faim parce qu'il dit, moi je veux retourner travailler, foutez-moi la paix, j'ai rien à voir avec ces gens-là. Donc, on est dans une situation qui est à la fois scandaleuse, purement et simplement scandaleuse. C'est-à-dire que dans un pays qui se prétend un état de droit, on se comporte comme dans n'importe quelle république bananière, on décide d'arrêter 25 personnes, on les met au chaud ou au frais, et puis on en expulse 20 comme ça sur décision personnelle, moyennant quoi probablement il va y avoir un appel, on va être obligé de les réintégrer, donc M. Pasqua, une fois de plus, va être grotesque. Et tout ça se passe, il faut quand même, c'est ça qui, moi, ce qui me choque, c'est pas du tout que la raison d'État intervienne et qu'on dise l'État prend la décision de faire ça, parce qu'après tout l'État est souverain, la France est souveraine sur son territoire, et si la France a envie d'expulser 26, 260, 26 000 ou 260 000 réputés islamistes, c'est son droit le plus strict et personne n'y pourra jamais rien. Mais c'est que pendant que M. Pasqua se livre à ces manipulations, il a à côté de lui un M. Gobert qui fait poursuivre les Français qui sont coupables de dire des choses que M. Pasqua met en application. Car si moi je dis les islamistes en France sont dangereux, on peut me poursuivre au titre de la loi Guesso pour avoir tenu des propos qui sont des propos d'exclusion au titre de la religion ou de l'appartenance ethnique. Mais pendant ce temps-là, M. Pasqua, il ne se contente pas de dire qu'ils sont dangereux, il les prend par la peau du cul et il les fout à la porte. Alors, il s'agit de savoir dans quel pays on est. Où on est dans un pays qui considère que l'islam est un danger? Où on est dans un pays qui considère que l'islam n'est pas un danger? Si on considère que c'est un danger, il faut le dire et il faut agir pour que ça cesse d'être un danger qui mette en question la survie de la société française. Si on décide que c'est pas un danger, alors de quel droit M. Pasqua prend-il la décision, pour des raisons strictement électoralistes, de rouler les mécaniques, de jouer les gros bras, en disant on va virer 26 bougnoules, comme ça les bons comptes français vont croire qu'on est des caïds. Mais je vous dis ce qui va se passer. La cour d'appel, la cour de cassation vont se réunir, et nos 20 expulsés, ils vont revenir les doigts dans le nez et les mains dans les poches. Et on va leur présenter des excuses, et ils vont demander des indemnités, et ils vont probablement les toucher. Donc M. Pasqua se donne aux frais des contribuables français les allures d'un gros dur, ce qu'il n'est pas du tout.
Voilà. Ce qu'il y a surtout, Serge, sans vouloir recentrer sur le personnage, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a deux choses. Il y a d'une part le discours où l'on dit il y a un islam tolérant. Alors en France, on développe un islam tolérant. dont la définition n'existe pas particulièrement. L'islam est l'islam et il n'a pas...
Donc la seule différence que l'on puisse faire, c'est entre les sunnites et les chiites, mais
oui, alors ça... Et l'islam n'a pas, comme n'importe quelle religion d'ailleurs, à se définir comme tolérant, qui est un mot introduit dans le vocabulaire véritablement assez tardivement. Alors, en dehors de cette chimère théologique, il y a un deuxième aspect qui se greffe là-dessus et qui est l'aspect médiatique que les hommes politiques essayent d'avoir. C'est-à-dire que plutôt que d'agir avec une police, j'allais dire policée et organisée, et qui soit un petit peu moins évidente que celle que l'on connaît aujourd'hui en France, car très sincèrement, à Paris, il y a plus de policiers qu'il ne peut y en avoir, ou de militaires, dans un pays du tiers-monde en révolution. Enfin, on se croirait véritablement entre un pronunciamento et un golpe entre le général
Tapioca
et le général Alcazar. Je crois qu'il y a une espèce de forfanterie médiatique qui a été d'ailleurs celle pratiquée antérieurement avec bien des malheurs. On l'a vu lorsqu'il y a eu les premiers pas du terrorisme corse, c'était déjà des coups de poing du ministère de l'Intérieur de l'époque. On voit les succès que ça a apporté. Il y a eu les opérations coups de poing à la sortie des métros, des RER, et on s'aperçoit que la délinquance ne baisse pas. Et là, on a rétabli peu ou prou une sorte de couvre-feu qui permet d'interpeller un certain nombre de gens qui sont en situation régulière, puisque nos frontières sont des passoires, mais qui, somme toute, ne modifient pas du tout la sécurité quotidienne des Français. Et, à contrario, on a réussi un joli coup médiatique, c'est-à-dire que Mitterrand a eu Barbie, bon, on le sait, par des moyens... alors là, c'était un contexte idéologique précis, mais par des moyens financiers. Eh bien, le gouvernement Balladur essaye de faire croire qu'en matière de sécurité, il a eu Carlos... entre deux tisanes amaigrissantes,
oui, ça,
gratuitement.
On va en parler.
Et c'est ça surtout qui est condamnable, c'est-à-dire l'aspect télévisuel, voilà, de la chose. Or, la sécurité, comme toute chose en politique, se devrait d'avoir des aspects moins triomphants, moins éclatants, moins débordants, moins serpents de mer de l'été, moins meublants, somme toute, pour la radio et la télévision et les médias en général, et plus efficaces sur le terrain.
Alors, à propos de ce que tu disais à l'instant, un auditeur nous dit, M. Pasqua se moque de nous, il y a eu 25 000 interpellations, il y a eu 250 illégaux qui ont été arrêtés. Alors, ça, c'est un chiffre qui est absolument dérisoire. Quand on pense que, dans une nuit, quand on fait, comme ça s'est passé certaines nuits, 2500 interpellations, et que sur ces 2500 interpellations, on nous apprend que 28 personnes ont été déférées devant la justice, on sait très bien que, évidemment, ça a été fait avec un filet à grosse maille. Et en plus, ça a été fait dans des conditions qui étaient formidables. On avait la radio qui disait, il y a des barrages, des contrôles de police en haut des Champs-Élysées, place Pigalle, au Châtelet et boulevard Saint-Michel.
Je me permettrai d'ajouter, Serge, que les contrôles qui ont eu lieu, notamment dans le quartier de la Goutte d'Or, ont donné lieu à des manifestations où les policiers ont été purement et simplement lynchés et il n'y a eu aucun contrôle. Parce qu'il y a quand même des parcelles de ce territoire national qui échappent totalement au contrôle de M. Pasqua. Et ça, c'est valable pour un certain nombre de zones urbaines. Il n'y a pas que la Goutte d'Or en France. Et ça s'est multiplié, ça se multipliera. Parce que je vois pas comment on arriverait à contrôler demain les irréguliers, les clandestins, cet afflux d'immigration illégale dans les cités, alors que les policiers ne peuvent même pas y mettre le pied. Ça, c'est quand même la question de départ, donc on peut... Toutes les suppositions sont possibles. Enfin, ce qui est certain dans tout ça, c'est que le constat que l'on peut dresser, c'est que les choses ne s'améliorent pas, contrairement à l'apparence.
Alors, il y a une autre affaire donc, qui a fait les délices de la presse cet été, c'est l'affaire Carlos. Et à mon avis, c'est une affaire qui mérite qu'on s'y arrête. Parce que, pour deux raisons. À cause de Carlos et du... portrait médiatique en a été fait, et à cause de Maître Vergès. Il a été dit sur Maître Vergès des choses incroyables. Il a été attaqué d'une façon ahurissante. Mais il a été attaqué par des gens, je peux en porter témoignage, qui pendant des années ont fabriqué Maître Vergès. Car Maître Vergès,
qui est un être d'une intelligence extraordinaire, d'une finesse extraordinaire, il ne s'est pas fait tout seul malgré tout. Personne ne se fait jamais tout seul. Il a été fait par les médias. Pourquoi était-il fait par les médias? Parce que Maître Vergès était évidemment un agent de déstabilisation du système. Il ne le cache pas d'ailleurs. Et je dois dire que personnellement, c'est la partie du personnage que je trouve la plus sympathique. Parce que ce système est tellement pourri, tellement dégueulasse, tellement répugnant, que tout ce qui peut d'accélérer sa déconfiture et sa décadence me paraît extrêmement réjouissant. Donc, en agent d'accélération du processus de pourrissement de ce système, je trouve que Maître Jacques Vergès était tout à fait dans son rôle.
Il y a une chose que je voulais ajouter quand même, Serge, là-dessus, sur le sujet, c'est que la campagne, quel que soit ce que l'on pense de Jacques Vergès, la campagne qui s'est déclenchée, encore sur des informations qui relèvent de la sécurité du territoire, des services, comme l'on dit, et apparu dans la presse et dans la grande presse quotidienne.
Voilà.
Alors
la
là, on peut quand même se poser des questions sur le rôle de la presse, d'une part. On peut se poser des questions sur le rôle de Jacques Vergès, ça c'est... Pourquoi pas? Ça fait déjà des années que nous nous posons des questions.
Mais
ça,
oui, mais c'est, nous, on s'est posé des questions... Pardon, mais on s'est posé des questions à une époque où on avait contre nous toute la presse bien pensante, qui disait, mais de quel droit vous en prenez-vous à cet avocat qui, après tout, ne fait que son travail, qui est de défendre ses clients, et vous n'avez pas à tenir compte. Ils nous ont fait le même coup pour Klaus Croissant, qui était le complice des terroristes qu'il défendait.
La curée, c'est très bien orchestré. Un grand quotidien populaire du matin, un quotidien, comme on dit, de référence du soir, qui a été une caisse de résonance du ministère de l'Intérieur pendant toute la période Jox. Ce sont quand même des questions que les individus normalement constitués doivent se poser.
Alors, et d'ailleurs, pardon, d'un point de vue sémantique, c'était tout à fait frappant, c'est que la même semaine, j'ai relevé dans les trois grands hebdomadaires, les news, comme on dit vilainement, exactement la même formulation. Il se met à défendre l'indéfendable. Mais très exactement le même terme.
C'est-à-dire, là, alors, on peut dire justement, qu'il y a un chef d'orchestre clandestin. C'est la charnière que je cherchais. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé dans la carrière de Maître Jacques Vergès qui a fait que de chouchou des médias, idolâtré par les médias, alors qu'il défendait les pires crapules, il a été quand même le défenseur des terroristes du FLN qui hachaient menu des enfants français et des femmes françaises dans des attentats aveugles. Ce qui n'aurait pas dû lui valoir la sympathie, même d'ailleurs, de la partie la plus avancée de l'intelligentsia française.
Je crois que c'est évident. Malheureusement, je pense qu'on ne peut pas le dire à
l'antenne. C'est pas utile de le dire.
Je crois que tous ceux qui ont... Je crois que c'est à partir du moment où il y a eu la défense de Barbie. Voilà. Je crois que ça a déclenché...
À partir de ce moment-là, M. Vergès, qui était l'idole des jaunes, est devenu bon à acheter aux chiens. Et alors, ça c'est une chose, c'est pas nouveau, c'est déjà arrivé à d'autres. Mais dans son cas, c'est quand même assez extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire, ce sont les moyens qui ont été mis en branle. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit, Maître Vergès est contestable dans ses méthodes de défense, ou pas du tout, c'est pas ça qu'on a dit. On a dit, Maître Vergès est le complice des terroristes, et il est intervenu auprès des autorités pour essayer d'obtenir des peines réduites pour ses clients. Mais attendez, je rêve ou quoi? C'est quoi le travail d'un avocat? Parce que si le travail d'un avocat, c'est pas d'aller voir tout le banc et l'arrière-banc du monde entier pour dire, écoutez, avec mes clients, soyez gentils, alors je me demande à quoi sert un avocat. Donc, ce qu'on reproche à Maître Vergès, c'est très précisément d'avoir fait ce que fait n'importe quel avocat quand il est payé pour ça.
C'est d'avoir fait même ce que font des gens qui ne sont pas avocats, dans des cadres de terrorisme d'ailleurs national, je ne citerai pas l'organisation, où il y a eu des liens extrêmement précis entre un ancien ministre de François Mitterrand et le père d'un terroriste encore incarcéré aujourd'hui.
Voilà, c'est exactement ça.
Qui effectivement a bénéficié de protection de la part de l'État français.
Alors ça, c'est la première chose. D'une part, on reproche à Vergès de faire ce que tout avocat fait quand il est un avocat normal. Bon, c'est-à-dire d'intervenir pour que ses clients soient moins condamnés, d'intervenir par tous les moyens. D'autre part, on lui reproche d'aller parler aux amis de ses clients, qui est quand même la moindre des choses, me semble-t-il. Mais en admettant que tout ce qu'on a dit sur Maître Vergès soit vrai, c'est-à-dire en admettant qu'il ait été effectivement beaucoup plus le complice que l'avocat de Magdalena Kopp, etc. En admettant ça, Comment le sait-on ? On le sait parce qu'un juge d'instruction, sous couvert du secret de l'instruction, s'est rendu en Allemagne, où il a consulté, au corps défendant des autorités allemandes, sans les avertir, des documents secrets des dossiers de la Stasi. Première chose. Ce qui est tout à fait son droit, et ce qui est très bien, je suis tout à fait d'accord, parce qu'il a le droit, dans la lutte contre le terrorisme, de mettre en branle tous les moyens possibles et imaginables. Mais pour son instruction. Deuxièmement, qui étaient les personnes qui étaient au courant ? C'étaient les correspondants français des agents allemands, c'est-à-dire, une fois de plus, ou la DGSR, ou le SDEC, enfin anciennement SDEC, ou la DST. Comment un dossier peut-il passer des bureaux de la DST, des bureaux de la DGSR, au bureau d'un journaliste français ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous croyez que je vais avaler une seule seconde l'idée que ce serait un agent de ces services qui se dit « Oh tiens, ça pourrait intéresser mon pote Popol, je vais lui envoyer le dossier ». C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un chef qui en réfère à un surchef, qui en réfère à un hyperchef et qui demande le feu vert du ministre. Et quand on a le feu vert du ministre, on envoie le dossier. Donc quand une information de nature confidentielle sort des services spéciaux, c'est parce que le ministre a voulu la faire sortir. C'est tout. Et je voudrais citer là-dessus un exemple. Il m'est arrivé une aventure. Un jour, ma photo, dans une réunion privée, a été publiée par l'événement du jeudi. J'ai jamais compris comment ils avaient eu cette photographie. Et puis, un jour, l'auteur de cette photographie est venu me voir, plusieurs mois plus tard, parce qu'il avait appris comment... il avait appris que l'événement du jeudi avait publié cette photographie. Et il est venu me voir, il m'a dit « Mais c'est très simple ». J'ai pris cette photo dans une soirée privée. Or, ce garçon, que j'avais vu une fois dans ma vie, c'était ce jour-là, était employé dans un casino de la Côte d'Azur. Casino où il y avait eu une affaire, un soupçon d'affaire de détournement de fonds. Et donc, il avait été arrêté comme employé de ce casino, comme tous les autres employés du casino, je dois le préciser. Il y avait eu chez lui une perquisition suivie de saisie. Et on avait saisi tous ses papiers personnels, y compris ses albums de photographie. Et la saisie avait été faite d'une façon très régulière, c'est-à-dire que tout était indiqué. Un album contenant 54 photographies, etc., etc., etc. Et puis, il a bénéficié d'un non-lieu, c'est-à-dire que l'affaire n'avait... Il était absolument pour rien là-dedans. Il a donc été libéré et on lui a rendu ses photographies. Et à l'époque, quand il a vérifié tout ce qu'on lui rendait, il s'est aperçu qu'il manquait des documents. Et il manquait ce document qui avait été retenu, cette photographie sur laquelle j'apparaissais dans une réunion privée, avait été, oui, faisant bonjour avec la main, avait été retenue par un policier du service des enquêtes des courses et jeux, qui enquêtait sur ce casino. Ok ? Quelques temps plus tard, cette photographie se retrouve dans l'événement du jeudi. Avec une explication circonstanciée des conditions dans lesquelles elle a été prise. Ce qui veut dire que le service des courses et jeux, à l'époque, avait transmis au RG politique, deuxième section, la photographie en question. Et que la deuxième section des renseignements généraux avait confié cette photo à M. Jean-François Kahn ou à un de ses sbires pour la faire publier dans l'événement du jeudi.
C'est de l'investigation, ça.
Voilà. Là, on est dans une situation absolument typique de connivence entre journalistes flics et flics marrons. Et flics politiciens. Et c'est ce qui se passe tout le temps. Si cette émission pouvait servir à quelque chose, en dehors du ton prime-sautier qu'elle a parfois, ça serait de faire comprendre à nos auditeurs que on ne vit pas dans une démocratie. On vit dans un état de petits flics. De petits flics. C'est-à-dire, pas un état policier. Un état de petits flicards où M. Gobert obtient de M. Pasqua, que M. Pasqua dise à son ami M. Jean-François Kahn que ça arrangerait tout le monde que telle photographie soit publiée. Parce que ça permettrait de montrer que dans l'entourage de M. Le Pen, il y a des gens qui ne sont pas fréquentables. Voilà en gros le système tel qu'il se passe. Car le papier expliquait ça. Le papier expliquait que Serge de Beketch était un ami de M. Le Pen. Voilà. Oui, ils avaient effectivement été obligés, parce que j'avais été prévenu avant l'apparition de la photo, car moi aussi j'ai mes flics, donc j'avais été prévenu et j'avais envoyé une lettre à M. Kahn pour l'avertir que s'il publiait cette photo sans mon autorisation, que je ne lui donnais naturellement pas, je ferais saisir son journal. Et comme il a eu peur, il a caviardé la photo, mais enfin, il expliquait que c'était moi qui étais à l'endroit où il avait mis du blanc.
On connaissait la silhouette quand même.
Vous reconnaissez la silhouette. Hein.
Non, voilà. Pour en revenir, Serge, aux affaires de terrorisme, moi je voudrais dire quand même, on va faire une observation. Ce qui est étrange, c'est que les États, lorsqu'il s'agit de se défendre contre le terrorisme, n'hésitent pas à employer, quand il le faut, tous les moyens, j'allais dire même légaux, juridiction d'exception, ou alors carrément donner l'assaut, comme ce fut le cas de la bande à Bono au début du siècle. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans le cadre de la démocratie médiatique qui est la nôtre, on donne la possibilité à des terroristes d'avoir des juridictions dites classiques qui pourraient être les mêmes que celui qui a franchi la ligne jaune, parce qu'aujourd'hui c'est un des pires péchés qui soit en république baladurienne, c'est de ne pas avoir de casque sur la tête lorsqu'on fait de la mobilette ou de rouler un peu plus vite sur les routes.
Et sans ceinture.
Donc on s'aperçoit qu'il y a là quand même quelque chose de voulu. De même que l'ensemble des procès qui ont été faits jusqu'alors, et on peut s'étonner d'ailleurs de la publicité et de l'extraordinaire publicité qui a été donnée à des procès comme les procès Barbie ou peut-être le procès Carlos demain, et à contrario d'une certaine chape de plomb concernant la classe politique à propos d'un des plus grands scandales du siècle qui a été le sang contaminé, et dans lequel on retrouve encore Jacques Vergès, et il est vraisemblable que dans cette opération il y a une possibilité, enfin une probabilité qui est quand même de lui couper un peu l'herbe sous le pied, puisqu'il est allé assez loin, dans sa défense des polytransfusés et du scandale du sang contaminé.
Oui, il y a autre chose que je dois dire à propos de Carlos. Je donne la parole tout de suite, Victoria, mais il y a autre chose que je dois dire. Moi, j'ai été élevé dans un système, comme vous tous d'ailleurs, je pense, où on avait le respect de l'ennemi. C'est-à-dire que, et même la surévaluation de l'ennemi. Et quand on lit la guerre des Gaules de César, en face de lui, c'est toujours des géants blonds qui sont 30 000 et qui sont des champions de la bataille.
Bon. Tu as dit, ça commence mal. Hein. De toutes les tribus gauloises, les Belges sont les plus forts. Oui. Hein. Ça commence mal pour nous.
Non, c'est vrai. Non, c'est parfaitement vrai. Bon. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ?
C'est-à-dire le respect de l'ennemi et non pas cette espèce de loi du talion accentuée qui consiste à piétiner l'ennemi.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On arrête Carlos. Je dois dire que moi, Carlos a manqué me tuer au moins une fois, parce que c'est très amusant. D'ailleurs, j'ai vu dans Minute récemment un rappel de l'attentat de Carlos contre Minute.
Oui, où l'immeuble a été fendu.
Jean-Pierre Cohen, Jacques Tillier et moi avons failli trouver la mort. Vraiment, on s'en est tiré par miracle. On était à trois positions différentes. L'un était en train d'entrer dans le journal. Moi, je venais d'en sortir.
L'autre était dans un couloir. De 2 mètres au rez-de-chaussée. Et l'immeuble a été fendu du rez-de-chaussée jusqu'au 5e ou 6e étage. Et
un morceau de radiateur du hall d'entrée avait traversé la porte de l'ascenseur métallique et avait traversé la paroi intérieure du fond de l'ascenseur métallique. Donc c'était vraiment un attentat.
C'est vrai que ça n'avait pas d'ailleurs attiré à l'époque, si je me souviens bien, les témoignages de sympathie de nos confrères.
Guerre. Il y en avait eu quelques-uns, mais pas beaucoup.
Mais pas parce qu'il y avait l'arche en même temps.
Mais non, c'était pas le même. C'est pas celui-là dont je fais allusion. L'arche, c'était autre chose. C'était un attentat à la voiture piégée. Parce qu'on en a eu plusieurs.
Mais c'est celui de Carlos. C'est celui-là.
Il y a eu deux attentats de Carlos contre Minute.
Et
j'ai pas de sympathie, évidemment, ni sympathie ni rien. Moi, je considère que c'est une bête sauvage qu'il faudrait tuer, et puis point à la ligne. Mais puisqu'on vit dans un état de droit, il faudrait le faire avec les règles du droit. Et en tout cas,
pas forcément.
Oui, enfin maintenant aussi.
Règles de la raison d'État.
Voilà. Ça, oui,
on
c'est
n'est
une.
Pas obligé de le juger.
Mais ce que je trouve alors parfaitement abject, c'est les petites informations qu'on nous distille aujourd'hui. On nous dit que il était rentré en clinique pour se faire faire une liposuction, c'est-à-dire pour se faire supprimer la graisse autour du ventre, le pneu, durion de comptoir.
La bouée de sauvetage.
Alors, écoutez,
c'est l'heure de l'apéritif.
Je veux bien, mais il faudrait quand même, encore une fois, ne pas trop nous prendre pour des imbéciles. Parce que très franchement, quand on sait ce que c'est que les interventions de chirurgie plastique, est-ce que vous croyez vraiment qu'un être moyennement intelligent, comme je pense qu'est M. Carlos Ramirez Sanchez, irait se faire faire une intervention de chirurgie plastique dans un hôpital de...
Au Soudan, surtout.
Khartoum. Oui,
Khartoum, au Soudan.
Il aurait pu aller au
Mais
Sahel.
Ils nous prennent pour qui? Oui, il aurait pu aller au Sahel. Ils nous prennent pour qui? Ensuite, ils nous racontent qu'il était tombé amoureux d'une bijoutière mariée avec un bijoutier du Soudan.
Bijou de famille, donc.
Donc encore une histoire de bijou de famille. Et que c'est le fils de la bijoutière, âgé de 25 ans, qui était venu le battre et qui l'avait dénoncé à la police. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? C'est du fédot qu'on nous fait. Ou c'est l'ennemi public numéro un, et il est réellement dangereux. Ou c'est un gros cochon qui pense qu'à culbuter les bijoutières et à se faire maigrir, à se faire tirer la peau, à se faire enlever par l'hyposuction. Mais on peut pas être les deux. On peut pas être à la fois l'auteur des attentats les plus sanglants qui ont endeuillé la France pendant des années et cette espèce de grosse tentouse qui va se faire diminuer parce qu'il a des trop gros nichons ou parce qu'il a un trop gros ventre. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Qui nous prennent ces journalistes?
Tu connais les problèmes de la presse. Il faut bien vendre.
Oui, mais pas ça. C'est répugnant. Ces gens-là sont pires que des chiens.
Mais quand on voit ces journaux répugnants, dont on ne dira pas les noms, qui sont apparus il y a quelque temps sur le marché, je ne sais plus quels sont les titres.
Justement, tu as dit que tu ne dirais pas les titres, alors ne les dis pas.
Ça commence par Info et ça se termine.
C'est pas de l'information, ça c'est du gag.
Ce sont des canulars monstrueux, mais qui réalisent des tirages.
C'est du canular.
Incroyable. Qui font des tirages incroyables. Et ça, c'est dramatique. Mais bon, à qui la faute?
Au peuple qui les achète, après tout, il a ce qu'il mérite. Est-ce qu'on a, ma chère Victoria, des messages qui sont dignes d'être diffusés?
Plusieurs auditeurs faisaient remarquer, à propos de Maître Vergès, qu'il était à la pointe du combat du sang contaminé.
Oui, c'est ce qu'a dit Philippe Colombani.
C'est ça, donc, et que ça prouvait donc qu'il était contre les socialistes. Ça, c'est peut-être moins sûr.
Mais je ne pense pas du tout que Vergès soit en quoi que ce soit un complice ou un proche ou un ami des socialistes français actuels.
Parce que Jacques Vergès est contre l'ordre établi. Alors, ce qui fait
Jacques Vergès, à l'évidence, veut foutre en l'air cette société.
Il peut attirer notre sympathie dans la mesure où une partie de l'ordre établi nous désespère ou nous dégoûte. Maintenant, ça n'est pas non plus un modèle pour nous. On ne va pas sombrer non plus dans le phénomène inverse. Mais traitement réservé à Jacques Vergès est aussi honteux que d'autres traitements réservés par les médias à des hommes politiques, à des personnages.
En tout cas, c'est un adversaire courtois. Il est venu plusieurs fois dans cette émission et dans d'autres émissions de Radio Courtoisie.
Et puis,
c'est
un homme qui a sa logique, qui n'est pas la nôtre, mais il a sa logique.
Ce qui ne veut pas dire du tout qu'il cautionne Radio Courtoisie ou que Radio Courtoisie le cautionne. C'est pas le problème. Pas parce qu'on parle ensemble qu'on se soutient mutuellement. Ça n'a rien à voir. Mais il fait partie de ces gens qu'il est intéressant de faire parler parce qu'ils sont au centre des affaires. Et même s'il ne nous dit pas la vérité, c'est toujours intéressant de l'entendre dire au moins sa vérité du moment. C'est plus passionnant que d'entendre M. Balladur marmonner les éternels mêmes truismes.
Il vaut mieux avoir une conversation avec Maître Jacques Vergès plutôt que d'écouter les émissions d'Arthur, ça c'est évident.
Je sens que je vais être malade, là. Je sens que je ne vais pas tenir, là.
Pasqua fait discuter nos auditeurs. On nous dit, je ne suis pas toujours d'accord avec Pasqua, mais je reconnais qu'il est encore le seul à faire un peu les poussières.
Ah oui, c'est vrai.
Mais en face, on dit, Pasqua ne sera pas grotesque, parce que ces abrutis de Français vont le soutenir et l'excuser, en disant qu'on l'empêche de faire quelque chose.
On pourrait mettre ces deux en rapport.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a là, d'ailleurs, les deux faces de la médaille Pasqua, qui est d'un côté, retenez-moi, je vais faire un malheur, célèbre pièce marseillaise, ville dont il est originaire.
Alors, il n'y a personne pour retenir ici.
Et de l'autre, il aura tout essayé, mais les autres le freinent.
Oui.
Voilà. Ce sont un peu les deux faces du personnage. Encore une fois, je crois qu'un bon policier, et on sait qu'un ministre de l'Intérieur, par définition, n'est pas un homme populaire. Je m'étonne d'ailleurs du taux de popularité de Charles Pasqua dans les sondages, parce que logiquement il devrait être très impopulaire. Un ministre de l'Intérieur est quelqu'un de détesté.
C'est parce qu'il fait rire.
Oui. Je crois, oui, c'est peut-être ce mélange de Fernandel.
Toujours dans les actions.
Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que, encore une fois, le côté tonitruant du personnage ne correspond pas du tout à ce que l'histoire a donné dans les régimes politiques, alors les plus récents, depuis l'Empire jusqu'à nos jours, de l'efficacité policière.
Bien sûr.
On pense au préfet Gander, à Vidocq, etc.
C'est exactement le contraire.
L'inverse de l'efficacité policière.
Le plus grand ministre de l'Intérieur français, je crois, ça a été Marcellin. Et Marcellin, on ne l'entendait jamais, c'était un Breton taciturne. Il faisait un boulot magnifique. Il a démantelé littéralement les réseaux pré-terroristes en France, sans quoi on se serait retrouvé avec, et pourtant Dieu sait que c'était pas mon copain Marcelin, mais s'il avait pas agi comme il a agi, on se serait retrouvé avec une bande à Bader, on se serait retrouvé avec des réseaux terroristes qui n'ont pas fonctionné en France comme ils ont fonctionné en Allemagne, en Italie, et en Espagne, et en Angleterre, etc. Donc Marcelin, si un jour quand je serai au pouvoir, il aura une statue.
C'est ton côté général.
Peut-être à l'école militaire.
Pour en finir avec les propos des auditeurs sur Pasqua, je connais un CRS de plage. Pasqua les oblige à prendre avec eux un jeune des banlieues.
Oui, on en a parlé.
Tous sont odieux, répondeurs, sales, paresseux. On leur donne 150 francs par jour pour cela.
Mais si cet auditeur avait lu le livre journal de la France courtoise, dont je parle pour la première fois à l'instant, et qui va reparaître à partir de la semaine prochaine, le 8, et qui est en vente par abonnement au prix de 600 francs, 139 boulevard de Magenta, 75 010 Paris. S'il avait donc lu le libre journal, il saurait que on a fait tout un papier sur cette incroyable, incroyable histoire qui consistait à prendre des jeunes des banlieues défavorisées.
Pour en faire des policiers.
Pour en faire des policiers auxiliaires. Oui. Et
c'est une méthode qui a marché avec Vidocq, mais Vidocq n'était pas originaire des banlieues.
Oui, mais Vidocq, il était un.
Il était français d'origine française, oui. Je crois.
Et puis il n'était pas 250 000. Alors l'idée au départ était de les mettre dans les banlieues, dans les commissariats et de les faire participer au travail des commissariats. Et là, les policiers ont trouvé quand même que c'était peut-être un petit peu fort. Alors, ils ont obtenu que ce soit modifié.
Non, je pense que la bonne solution, ce serait effectivement ces jeunes des banlieues, d'aller les mettre dans des banlieues islamiques. Et là, ça ira tout de suite beaucoup mieux.
Mais moi, j'ai l'impression que ces jeunes des banlieues sont très occupés, parce que j'ai pris le train le lendemain de la libération de Paris. C'est-à-dire 50 ans après que le général de Gaulle, Georges Bidault, etc., la deuxième DB... Paris libéré par son peuple, la préfecture de police est libérée Paris. Donc le 50 ans après, moi je me suis trouvé dans un train qui allait dans l'est de la France. Une ville autrefois de cuirassiers. Je partais pour Lunéville. Aujourd'hui, ville bien désertifiée, comme l'on dit, mais enfin, où il y avait un musée militaire d'ailleurs fort intéressant qui est fermé depuis parce que.
Je me demande si tu ne t'égares pas du sujet.
Donc j'allais à Lunéville et je me suis trouvé, quoique voyageant dans un compartiment de première pour être tranquille, pour pouvoir lire...
Ne t'excuse pas.
C'est mon sentiment antisocial, moi j'aime bien être tranquille. Et à côté, un compartiment de seconde, et beaucoup de bruit, et j'aperçois des gamins de 12-13 ans qui n'arrêtent pas d'aller et venir et qui ont le t-shirt Libération de Paris. Ils venaient de défiler sur les Champs-Élysées. Eh bien, ils s'appelaient Ali, Mohamed, etc., etc. Et c'était les jeunes des banlieues qui avaient été employés, rémunérés, emmenés et pour défiler sur les Champs-Élysées pour nous apprendre que nous avions été libérés il y a 50 ans. Je trouve ça super.
Qui ne remet pas en cause les Ali et les Mohamed qui ont aidé à libérer Paris.
Je trouve ça très bien. On reçoit les occupants d'hier au défilé du 14 juillet et ceux d'aujourd'hui au défilé du 24 août pour tout ça d'une logique imperturbable. Madame Victoria.
Un dernier petit mot sur Pasqua. Si les Soudanais ont livré Carlos, c'est parce que Pasqua est président des amitiés franco-soudanaises.
Ah bon, ça c'est certainement, oui.
Très belle chanson.
C'est très bon.
Je crois que c'est l'heure de la...
C'est très bon à savoir. C'est l'heure de la rupture, bête et brutale. Alors, écoutez, on va écouter un peu de musique, alors, pour finir.
Deux gendarmes un beau dimanche chevauchaient le long d'un sentier. L'un portait la sardine blanche, l'autre le jaune baudrier. Le premier dit d'un ton sonore, le temps est beau pour la saison.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8. Vous écoutez
le libre journal de Serge de Bekech, diffusé en direct le mercredi 31 août de 18 à 21h et en différé le jeudi 1er septembre dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Patrick Simon. Si vous le souhaitez, vous pouvez intervenir au cours du libre journal de Serge de Bekech par téléphone au 46 51 00 85 ou par télécopieur au 46 51 21 82.
C'est pour la Sainte Lucie, pour la vieille tradition, pour la gloire et la vantine, que luttaient ces batailles. Pour la gloire et la vantine, que luttaient ces batailles. Votre gloire est immortelle. Blanc, et vos agonies cruelles, la honte de l'Occident. Et vos agonies cruelles, la honte de
bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième moitié d'émission. Et puis, rebonsoir à tous ceux qui restent avec nous. J'ai une bonne nouvelle, c'est que je viens de recevoir un fax de Marie-Josée, qui est la secrétaire personnelle de Jean-Marie Le Pen, qui me confirme que M. Le Pen sera l'invité de cette émission la semaine prochaine de 18 à 19h30. Donc, la première partie de l'émission sera consacrée à un entretien avec Jean-Marie Le Pen sur l'année qui se prépare, et il y aura quelques sujets à évoquer, vous vous en doutez bien. Nous reprenons comme nous reprenons la tradition qui avait été interrompue pendant mes 3 semaines d'absence, avec un court entretien avec Marc Dem. Bonsoir Marc.
Bonsoir Serge.
Alors, je rappelle ce haut que j'ai un écho magnifique dans mon... C'est très très bien. C'est beau.
Ah.
J'ai une voix vraiment, une suavité.
Oui, 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 mais vous savez...
Mais vous n'entendez pas l'écho, vous.
Non, mais je sens la sonorité de la voix. La
sonorité de bronze.
Ah, oui.
Bronzique. comment dit-on quand il s'agit de... Je sais, quand c'est l'ivoire, on dit éburnéenne, et pour l'airain, qu'est-ce qu'on dit? Relatif à l'airain, ah voilà. Donc on demande aux auditeurs de bien vouloir se mobiliser. Eh
bien, éburnéen, oui.
Éburnéen, c'est l'ivoire.
Non, éburnéen, c'est l'ivoire, oui.
Ouais. On trouvera ça.
Vous tenez au bronze, hein?
Bronze ou les reins, oui. Comme vous voulez. Enfin, bon. Une belle voix. Alors, Marc, je rappelle que vous êtes le réalisateur, auteur, directeur, rédacteur, investigateur, enquêteur, découvreur de la lettre confidentielle d'information religieuse, Iota Unum, qui est à peu près universellement connu dans les milieux intéressés. Et je vais vous demander... de nous donner un échantillon de la lettre qui va paraître prochainement. Mais là, je vais vous demander un exercice extrêmement périlleux. Je vais vous demander 3 informations agréables à entendre. Est-ce que vous êtes capable de me faire ça?
Qui ne feront peine à personne,
eu égard à la qualité des invités que je recevrai après vous et que je ne voudrais pas mettre en difficulté.
Oui. Alors, on peut les tourner de cette façon-là. D'abord, je dirais que le prochain numéro qui paraîtra samedi ruisselle d'informations, toutes ces informations qui se sont précipitées depuis un mois et que je n'ai pas pu traiter en leur temps, mais qui sont toujours d'actualité. Alors, la première, c'est une bonne nouvelle. Monseigneur le cardinal Ratzinger annonce son départ. Alors, pourquoi est-ce une bonne nouvelle? Parce que Personnellement, je ne le regrette pas beaucoup et j'ai commencé une étude.
C'est au moins une bonne nouvelle pour vous.
Voilà, et je crois pour l'Église, j'ai commencé une étude sur la théologie de Mgr Ratzinger et l'on voit que depuis toujours et jusqu'à ces derniers temps, Mgr Ratzinger n'est pas un homme du Concile de Trente, c'est-à-dire que le Concile de Trente, c'est une chose qu'il rejette pratiquement. Donc c'est un homme tout à fait dans le vent, dans le courant de l'histoire actuelle, et qui ne représente pas vraiment, si l'on peut dire, la bonne tradition catholique. Bon, cela, je veux le dire parce que c'est vrai et que je donne toutes les preuves voulues.
Bien, alors maintenant, est-ce que vous avez une bonne nouvelle?
Une nouvelle bonne. Alors, une nouvelle bonne, oui. Irène Pivetti.
Oui, la Pivetti.
La Pivetti, mon béguin.
Il Pivetti, ici, d'ailleurs. Oui. Ah, pardon, alors on dit il Pivetti. Me dit M. Blanchard que je vais vous présenter avant qu'il soit l'heure d'un cochon de lait.
Yves Pivetti, pourquoi?
Il Pivetti.
Ah oui, oui.
Le Pivet.
Ah oui. Oui, oui.
Bien que ce soit une dame.
Bien que ce soit une dame. En tout cas, c'est une dame qui a beaucoup d'énergie. Comme tout le monde sait, rappelons qu'elle est présidente de la Chambre des députés italienne, et que c'est quelqu'un qui a de très bonnes idées, au point de vue religieux, entre autres. Eh bien, elle est venue passer quelques jours de vacances en France. Et où est-elle allée? En Vendée. Vous savez qu'elle porte le cœur vendéen autour de son cou, d'une façon permanente. Et elle a été priée le 19 août dans la crypte du mémorial de la Vendée pour les victimes de la Terreur bleue. Donc, il y a des gens et des grands politiques qui savent se compromettre et qui savent se compromettre là où il faut.
Voilà une très bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle.
Oui. Hein? Oui. Bien. Vous avez droit à une autre.
Alors, une autre, oui, qu'on peut considérer comme une bonne nouvelle, si on veut. Bon. Qui n'est ni bonne ni mauvaise, elle est surtout bizarre. Au mois d'août, généralement, c'était le monstre du Loch Ness. Qui faisait les frais de la conversation et qui faisait les frais des journaux. Mais c'est finalement, il est bien usé, et puis il paraît qu'il est faux. Alors, on a trouvé autre chose. Maintenant, c'est Jésus. Hein? Jésus au mois d'août. Alors, on a vu dans la presse, et surtout dans la presse étrangère, tout ce qu'on peut voir depuis l'histoire, le gadget habituel du suaire de Turin qui aurait été peint par Léonard de Vinci. C'est la troisième fois qu'on nous la sert. Oui. Nous l'a servi l'année dernière, en 1993. C'était une Italienne, Maria Consolata Corti. Cette année, c'est une Anglaise, Lynn Picknett. Et en 1969, c'était déjà une autre Italienne, Noémie Gabrielli. On peut dire que ça tient à cœur à beaucoup de gens. Et on peut dire aussi, simplement, sans entrer dans une argumentation pour détruire cette thèse absurde, que le Saint-Suaire a été vu et exposé d'une façon certaine en Champagne en 1357, alors que Léonard de Vinci est né 100 ans plus tard.
Alors que Léonard de Vinci, que 100 ans plus tard, c'est ça que...
Léonard de Vinci, oui, est né 100 ans plus tard, en 1452. Alors, il y a... toujours dans la rubrique Jésus au mois d'août, un Anglais qui expose que le Christ n'a pas été crucifié.
Oui.
Alors,
intéressant.
Il se fonde sur quoi? Sur rien du tout. Puisque,
oui, c'est plus commode tout, comme ça, c'est vrai.
Il y a quand même un document en 4 volumes, qui est même plus que 4 volumes, qui existe et qui est le document essentiel dans cette sorte de choses.
Il y a quand même quelques témoins.
Oui, alors lui, voilà, ce qui est très curieux, c'est ceci. Il dit qu'il n'a pas été crucifié par les Romains, mais lapidé par les Juifs.
Aïe, aïe, aïe.
Ah, et vous voyez pourquoi? Vous voyez pourquoi il prend cette thèse absurde. Chose qu'il n'avait pas du tout besoin de faire, puisque la responsabilité des Juifs est celle que nous connaissons, des Juifs de l'époque, bien sûr, est celle que nous connaissons. Et là-dessus se greffe une affaire, alors, qui fera parler d'elle, que je viens d'apprendre par l'intéressé, il y a juste 2 jours. Vous savez que Mgr Haït, j'en ai parlé d'ailleurs.
Oui, il a fait une conférence.
Oui, avait fait une grande conférence retentissante à Bordeaux, disant que les Romains étaient tout, hein, dans cette affaire, que le Sanhédrin, les chefs des prêtres, les grands prêtres, etc., n'avaient eu aucun rôle.
Oui. Hein. Faudrait peut-être lui envoyer, si vous aviez une vieille édition de, du Nouveau Testament,
oui,
Monseigneur,
c'est ce que je lui ai déjà suggéré, mais, oui, mais voilà qu'un monsieur qui habite dans le Lot, monsieur Junin, on peut dire son nom puisqu'il sera bientôt public, ce monsieur Junin écrit à son journal et on fait paraître sa lettre dans le courrier des lecteurs, où il explique ce que vous avez sur les lèvres, il l'explique à Monseigneur Haït, mm-hmm, hein, d'une façon très nette, et puis il commence d'ailleurs, il est très gentil et très poli ce monsieur, il commence en disant « Par les origines terrestres du Christ, tout chrétien est spirituellement sémite, de ce fait, ses propos sont à lire strictement au plan religieux, en aucun cas racial. Mm-hmm. » Après cette précaution oratoire, il expose qu'on ne peut pas, on ne peut pas soutenir une thèse comme ça, ce n'est pas possible. Il donne les références, mais voici que ce monsieur vient d'être assigné par la LICRA, qui lui réclame, me dit-il, 53 500 francs.
53 500 francs.
Oui.
J'allais dire, il aurait dû prendre contact avec Maître Gergès assez vite, mais...
bon. 53 500. Précisément, pas 50 000,
non,
pas 60 000.
Non, c'est... je ne sais pas comment ça se décompose, mais il va de soi que voilà une affaire assez extraordinaire qui se situe maintenant sur le plan de la persécution religieuse.
Oui.
Ces dénonciateurs publics que sont la LICRA et toutes les autres associations du même genre, ces accusateurs publics maintenant se placent sur le plan religieux, et non plus sur le plan politique ou humanitaire, ou tout ce qu'on voudra. Alors c'est très grave, je pense suivre cette affaire, je crois que
Je pense bien, on la suivra avec vous, oui.
Oui.
Merci, voilà, mon cher Marc. Et bien, bon courage au liqueur.
Merci.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Alors, je rappelle que les informations que vous venez d'entendre sont un très modeste extrait de la lettre confidentielle d'information religieuse qui s'appelle Iota Unum et qui est l'œuvre de notre ami Marc Dehm. Vous pouvez vous en procurer un spécimen en envoyant votre carte de visite adorné de quelques timbres à l'adresse suivante, boîte postale 52 78 101 Saint-Germain-en-Laye CEDEX, boîte postale 52 78 101 Saint-Germain-en-Laye CEDEX, et vous recevrez pendant 15 jours, 3 semaines ou pendant juste une semaine, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, un spécimen ou plusieurs spécimens, en tout cas c'est certain, de cette lettre confidentielle qui est tout à fait passionnante. On va écouter pour bien marquer la pliure de cette émission, pour bien marquer que tout ce qui a été dit avant n'a rien à voir avec les invités qui viennent maintenant, on va écouter une musique qui va évidemment nous mettre dans un état de réceptivité tout à fait favorable. C'était donc, vous l'avez reconnu, un morceau de musique de chant grégorien.
Chanté par les moines de Solesme.
Voilà. Alors, je vous entendez Yves Gir, dont vous reconnaissez la voix, puisque vous l'écoutez toutes les semaines. Et quand on a lancé, comme on dit en termes techniques, ce morceau, il m'a dit, ça dure 4 minutes et demie. Donc, à peu près 3 secondes après le début du morceau, il avait totalement identifié à la fois que c'était un offertoire, que ça durait 4 minutes et demie, que c'était fait par les moines de Solesme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, Monsieur Gir, sur ce morceau?
C'est l'offertoire du 12e dimanche après la Pentecôte.
Et c'est ce, voilà.
C'est le plus long de tout le répertoire.
Voilà, voilà ce qu'est un spécialiste. Alors, trois mesures, et c'est l'offertoire du 12e dimanche après la Pentecôte.
Et comment avez-vous reconnu Solheim?
Pas parce que je connais l'enregistrement. Oui. Et puis on reconnaît tout de suite Solheim quand on a l'habitude. Ouais. Hein. Chaque chœur a vraiment sa personnalité.
Et c'est une personnalité qui avait été donnée par Don Jean Clerc ou
Non, c'est Don Gageard.
Mais maintenant, Don Gageard, mais avant Don Jean Clerc.
Non, c'est le contraire.
C'est après, c'est Don Gageard d'abord.
Don Jean Clerc est le maître de chœur actuel.
D'accord.
Mais ça, c'est un enregistrement qui a été fait par Don Gageard, qui est mort il y a 20 et quelques années.
Alors, pourquoi avons-nous décidé de consacrer la deuxième partie de cette émission au Grégorien? Parce que le Grégorien est une chose magnifique, ça, il n'y a pas besoin d'excuses pour ça. Mais il y a une raison circonstancielle, c'est que M. Pierre Blanchard, qui est trésorier de l'Association internationale de musique sacrée,
à Rome,
et qui vit à Rome toute l'année, est de passage à Paris aujourd'hui, ce qui est tout à fait exceptionnel, et M. Gir m'a fait remarquer la chance que nous avions que M. Blanchard accepte de participer à cette émission, à propos d'une manifestation qui va se dérouler dans quelques temps, dans quelques semaines, à Chartres, et qui s'appelle le Symposium de Chartres. Alors, on peut peut-être déjà évoquer cette manifestation, Yves.
Alors, si vous permettez, je vais d'abord rappeler que ce rendez-vous de ce soir fait suite à une émission précédente de ce libre journal du mercredi, qui s'était déroulé au mois de mai, pendant que vous étiez sur votre lit de douleur, et c'était Daniel Amiche qui avait dirigé cette émission, et il avait reçu le chanoine Legault, qui est le recteur de la cathédrale de Chartres, et qui avait donné un panorama général de toutes les cérémonies du 8e centenaire de la cathédrale, puisque c'est en 1194 que la cathédrale actuelle a été commencée à la suite d'un incendie qui avait détruit la cathédrale précédente. Donc on veut fêter solennellement ces fêtes de ce 8e centenaire, et les manifestations vont se dérouler pendant pratiquement tout le mois de septembre et jusqu'au début d'octobre. Je peux vous en redonner, si vous voulez, un petit résumé très rapide.
Oui, parce que c'est à la fois très complet et
voilà. Elles vont commencer dimanche prochain, 4 septembre, par la finale du concours international d'orgue, qui a lieu tous les ans à Chartres. Et ça, c'est une manifestation dont on a parlé récemment, il y a quelques semaines, dans le Libre Journal des musiciens de Didier Rochard. Et alors ensuite, la partie principale se déroulera du 8 au 11 septembre. Alors, du 8 au 10 septembre, il y aura un colloque universitaire international avec des communications de personnalités éminentes qui sera certainement très intéressant sur le sujet monde médiéval et société chartraine. Et dans le cadre de ce colloque, il y aura une conférence publique qui sera donnée le 8 septembre au soir à 20h30 de M. Erland Brandebourg, qui est directeur général des Archives de France et qui a publié il y a quelques années un livre très intéressant sur la cathédrale, dont on avait parlé d'ailleurs à Radio Courtoisie, et qui est tout à fait remarquable. Et il parlera de cathédrale de Chartres, cathédrale des Chartrains, église des pèlerins. Dans le cadre de ces festivités du 8 au 11 septembre, il y aura également un concert le 9 septembre au soir dans la cathédrale du Requiem allemand de Brahms. Les 10 et 11 septembre, donc le samedi et le dimanche, alors non pas dans la cathédrale, mais tout autour, sur le palvis, il y aura une fête médiévale. Et puis les deux soirs, du 10 et du 11 septembre, sur le parvis de la cathédrale, il y aura un mystère dans l'esprit des mystères du Moyen-Âge. Et alors le 11 septembre, dans la cathédrale, il y aura évidemment des cérémonies religieuses, à 10h45, grand messe pontificale, et à 16h, vêpres pontificales. Mais alors là, ce seront des cérémonies de la liturgie actuelle en français avec des chorales de la région qui chanteront les chants qu'on chante actuellement, ce qui ne sera pas le cas du symposium dont nous allons parler après. Et un concert spirituel, alors là, qui sera certainement très intéressant à 17h30, pour y faire entendre la messe solennelle de Louis Vierne. Alors ensuite, on passera, il y aura des expositions, quelques petites choses, mais on passera donc ensuite à la clôture qui aura lieu les 1er et 2 octobre avec le symposium de musique sacrée dont nous allons parler plus en détail. Alors le chanoine Legault en avait parlé déjà dans l'émission du mois de mai, mais il en avait parlé quand même assez rapidement. Il avait surtout parlé des deux grands messes qui seront célébrées le samedi et le dimanche, en insistant sur le fait qu'elles seraient chantées en grégorien et en se réjouissant d'entendre le chant grégorien chanté dans la cathédrale. Mais il n'avait pas donné le détail des autres manifestations du symposium, et surtout il n'avait pas dit par qui il était organisé. Or le symposium est organisé par la CIMS, la Consociation Internationalis Musicae, qui est sacré, organisme
pontifical. Dont Monsieur Blanchard est trésorier.
Monsieur Blanchard est trésorier, et donc on a profité de son passage pour en reparler, d'autant que au cours de cette émission du mois de mai, Daniel Amich avait dit, mais tout ça, il y aura encore beaucoup à dire, il faudra absolument refaire une émission à ce sujet. C'est donc pourquoi je vous ai proposé de la refaire ce soir. Bon, est-ce qu'on recommence par donner le programme du symposium ou on parle de la CIMS? Alors, je dis tout de suite que la CIMS est un organisme romain et que le symposium se déroulant en France, elle a confié toute l'organisation matérielle à la Scola Saint-Grégoire du Mans, qui est une école de musique sacrée.
Où vous êtes enseignant, d'ailleurs?
De chant grégorien, dont je fais partie du comité directeur et je suis le responsable des cours de Paris. Mm-hmm. Alors on pourra aussi parler de la Scola Saint-Grégoire parce que je pense que c'est important, étant donné que c'est la seule école de musique sacrée pratiquement qui se consacre uniquement à ça en France, et particulièrement au chant grégorien. Or, je me permettrai d'insister pour que beaucoup de personnes s'y intéressent et acceptent de recevoir cette formation parce qu'on en a besoin. Alors si vous voulez, je peux peut-être...
Oui, on peut déjà survoler le programme.
Général. Alors je peux déjà donner le comité d'honneur parce que donc il est ce symposium est organisé par la CIMS, cet organisme pontifical international, et pratiquement par la Scola Saint-Grégoire. Il y a tout un comité d'honneur qui comprend environ 25 personnes, moitié laïque et moitié ecclésiastique, et dont 8 pères abbés, dont les pères abbés de Fongombeau, Randol, Trior, Le Barou, bien entendu, Monseigneur Ovrat, dont on va parler certainement, qui est le président d'honneur de la CIMS. Il y a quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Mgr Gilles Vac.
Oui, bien sûr.
Voilà, et puis des professeurs d'université comme André Clément, Yvan Gobry, également comme musicien, il y a Monsieur Avard de la Montagne, maître de chapelle de la Madeleine, qui fait partie du conseil d'administration de Una Voce, d'ailleurs. Puis il y a quelques étrangers comme Monsieur Marier des États-Unis, qui dirige la fondation Domocro aux États-Unis. Voilà, alors maintenant, pour en venir au déroulement des manifestations, et ça déroule donc sur 2 jours. Alors, il y aura 2 grands messes. Je voudrais tout de suite donner une précision, parce que je pense que certains auditeurs pourront se poser la question, ils la poseront peut-être. Ces 2 grands messes seront célébrées suivant suivant le nouveau rite, le rite actuel, puisque la CIMS est un organisme pontifical, elle y est tenue. Mais, ça sera célébré intégralement en latin, et tous les chants seront en grégorien avec une partie de polyphonie. Ça sera donc quand même tout à fait la musique sacrée traditionnelle de l'Église. Et évidemment, ça n'aura aucun rapport avec les cérémonies auxquelles on est habitué actuellement dans nos paroisses. Ce seront donc 2 grands messes entièrement latines et grégoriennes avec une part de polyphonie. Alors la première était celle du samedi. Le samedi à 10h30 devait être célébrée par Mgr Perrier, évêque de Chartres, et qui avait accepté très, très volontiers de patronner ce symposium dans sa cathédrale. Et puis malheureusement, il a été obligé...
Au Canada.
Oui, il est obligé d'aller au Canada, enfin pour une mission qui lui a été imposée, tout à fait indépendante de sa volonté. Et alors il sera remplacé, on a quand même un évêque, ce sera je crois Mgr Brunon, ancien évêque de Tulle, qui est un évêque à la retraite. Donc on aura quand même une grand-messe pontificale ce jour-là. Alors... La chorale qui chantera le propre sera un groupe de chanteurs parisiens qui a été formé par la Scola Saint-Grégoire. Et donc on a choisi un groupe parisien pour pouvoir organiser plus facilement des répétitions préalables pour que ça soit parfaitement bien au point. Et évidemment, tout le Kyrielle sera chanté par toute l'assistance. Alors comme on a envoyé des invitations à toutes les chorales de France qui pratiquent le chant grégorien, j'espère qu'il y en a beaucoup qui viendront et que l'Église la prenne de chanteur et que ça sera magnifique. Il y aura également une partie polyphonique qui sera assurée par une chorale allemande de Bavière et qui chantera alors à l'offertoire et à la communion après les pièces grégoriennes des motets de Palestrina et de Lassus, puisque nous célébrons cette année le 4e centenaire de la mort de ces 2 compositeurs. Ils sont morts tous les 2 en 1594. C'est donc une occasion de les commémorer. Il y aura donc de la musique de Palestrina et de Lassus. Et puis il y aura également, bien entendu, le grand orgue qui se fera entendre au moment voulu. Alors tout ce que je dis de cette grand-messe est valable également de la grand-messe du dimanche, qui aura lieu à 11h, mais qui sera, elle, célébrée par le cardinal Gagnon, donc qui est bien connu, qui est un Canadien, mais qui est à la curie romaine, où il était président du comité pontifical pour la famille, je crois, et qui vient volontiers en France. Il est déjà venu assez souvent, on le connaît bien.
Oui, bien sûr.
Et il célébrera cette messe volontiers. Tout le reste, ça sera, alors là, ça sera la messe du dimanche, mais le propre, l'ordinaire, les parties polyphoniques, l'orgue, exactement comme la veille.
Et ce sont des messes qui sont libres d'accès.
Ah oui, alors absolument. D'ailleurs, si vous voulez, je donnerai les indications pratiques après. Alors, pour en rester avec les manifestations, les cérémonies religieuses, il y aura le soir à 20h30 à la cathédrale le chant des complis, qui sera suivi d'un concert, on va en reparler, et puis le dimanche à 17h15, vêpres et salut du Saint-Sacrement, et ça se terminera par le chant du Te Deum. Alors ça, c'est le chant de l'office, ça sera intégralement l'office traditionnel, tel qu'il s'est toujours déroulé, intégralement en latin et en grégorien, bien entendu. Et alors, les chants des complis le samedi soir, à 20h30, sera suivi d'un concert, et un concert que je crois est tout à fait exceptionnel et très intéressant. Il a pour thème les 15 mystères du rosaire. Je pense que tous nos auditeurs savent ce que c'est que le rosaire. Ils savent que le rosaire, c'est le psautier de Notre-Dame. Il se compose de 150 Ave Maria, comme le psautier comporte 150 psaumes, qui sont répartis en 3 chapelets. Alors le rosaire, ça veut dire petite couronne de rose qu'on offre à la Sainte Vierge. Le chapelet, c'est le petit chapeau formé par cette couronne de rose. Et chaque chapelet comporte donc 5 dizaines. Et chaque dizaine est affectée d'un mystère qu'on médite en égrenant les Ave Maria. Alors il y a 5 mystères joyeux qui sont l'Annonciation, la visitation de la Sainte Vierge à Sainte Élisabeth, la Nativité dans la crèche de Bethléem, la présentation de l'enfant Jésus au Temple, le recouvrement au temple au milieu des docteurs. Ensuite, il y a les 5 mystères douloureux qui sont l'agonie de notre Seigneur au jardin des Oliviers, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de la croix et la mort sur la croix. Et enfin, les 5 mystères glorieux qui sont la résurrection au matin de Pâques, l'ascension, la Pentecôte, l'assomption de la Sainte Vierge et le couronnement de la Sainte Vierge dans le ciel.
Je vous prie de m'excuser, mais il faut peut-être signaler que le Chœur Montjoie Saint-Denis a réalisé très récemment une cassette consacrée au mystère glorieux, qui est assez remarquable.
Oui. Très bien. Alors là, ce sera donc un concert qui sera consacré aux 15 mystères. Et pour chaque mystère, il y aura une pièce grégorienne illustrant ce mystère, suivie d'un morceau d'orgue commentant le chant grégorien. Alors il y aura 3 organistes qui se partageront la tâche, dont Patrick Delabre, l'organiste titulaire de la cathédrale de Chartres, et 2 organistes allemands qui viendront également. Donc je crois que ce sera un concert tout à fait exceptionnel.
C'est un moment tout à fait exceptionnel, oui. Mais est-ce que ça va être enregistré, ça?
Bon, certainement, oui. Certainement. Je crois que ça sera enregistré en audio et en vidéo. Voilà, alors ensuite, voilà pour la partie proprement cérémonie, qui se dérouleront à la cathédrale. Alors, il y aura également une partie de conférences le samedi après-midi et le dimanche après-midi qui se dérouleront dans le grand amphithéâtre du Crédit Agricole qui est à côté de l'hôtel de ville, à environ 500 mètres de la cathédrale. La séance du samedi sera présidée par Mgr Ovrat, donc le président d'honneur de l'AMSIMS dont on va parler, qui prononcera la locution d'introduction. Et il y aura 2 conférences, la première sur le thème du congrès qui est la Bible chantée dans la liturgie, pour montrer comment... tous les chants, le chant grégorien essentiellement, illustrent des textes de la Bible, puisque la plupart des chants du propre de la messe sont tirés de l'Écriture sainte. Et cette conférence sera donnée par Don Couraud, qui est le tout nouveau père abbé de Trieure, puisque Trieure, donc, est une abbaye qui s'est située dans la Drôme, à côté de Romans, est une fille de Fongombeau. Elle a été fondée il y a 10 ans, et elle vient d'être érigée cette année en abbaye, et Don Couraud a reçu la bénédiction abbatiale le 11 juin dernier. Et donc, certainement, il traitera magnifiquement ce sujet-là. Et la deuxième conférence aura pour thème « La cathédrale de Chartres, édifice de lumière de l'Église qui chante ». Alors, elle sera donnée par un professeur allemand, celui qui devait la faire initialement est malheureusement décédé subitement, il y a quelque temps, Mgr Nissen. Alors, il sera remplacé par Mgr Ronig, je crois, qui est également un Allemand et également très compétent. Et je pense que ce sera un thème intéressant qui mettra en évidence les rapports entre la musique sacrée et l'architecture sacrée. Et dans le cas particulier de la cathédrale de Chartres, édifice de lumière.
Ce qui est tout à fait vrai.
Ce sera certainement très intéressant. Alors, le dimanche après-midi, la séance sera placée sous la présidence de M. Gilbert Pérol, ambassadeur de France, qui est déjà venu à Radio Courtoisie.
Bien sûr,
on connaît.
Il n'est pas un habitué, mais enfin, qui est un des invités.
Voilà, qui prononcera alors lui la locution de conclusion. Et il y aura 2 conférences. la première du père Barofio, qui est un père abbé italien, qui est le vice-président de la CIMS et qui est actuellement le président de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée. Il ne faut pas confondre, alors je le dis tout de suite, la CIMS, organisme pontifical d'études et de conseils, avec l'Institut Pontifical de Musique Sacrée, qui est une école supérieure de musique sacrée. Donc, il est, lui, le père Barofio, il est vice-président de la CIMS et président de l'Institut Pontifical. Et il parlera du chant grégorien, forme musicale la plus achevée pour toute l'année, chaque jour, chaque heure. Donc, montrer comment le chant grégorien exprime tous les sentiments qui doivent nous animer tout au long de notre vie. Et la deuxième conférence, par M. Bogarts, qui est également un des dirigeants de la CIMS, qui est un Hollandais, qui dirige une chorale à Utrecht, à la fois grégorienne et polyphonique. Alors lui, il traitera du sujet de la polyphonie, la forme des pièces polyphoniques, des propres de la messe, donc la manière de chanter le propre de la messe par des pièces polyphoniques, au début de la polyphonie, c'est-à-dire essentiellement au XVIe siècle, et aujourd'hui. Voilà donc les différentes conférences.
Alors, c'est un programme magnifique.
C'est un programme magnifique. Alors, puisque vous avez posé la question, on peut peut-être tout de suite l'aborder la partie pratique. Toutes les manifestations sont libres. On peut entrer sans s'inscrire. Bien entendu, les manifestations religieuses dans la cathédrale, mais également les conférences. Cela dit, il est quand même recommandé de s'inscrire parce que les organisateurs souhaitent savoir à peu près combien de personnes il y aura. C'est pourquoi... Et d'ailleurs, si on veut avoir le programme détaillé avec toutes les conditions et tout, il est facile d'écrire. Alors, il faut s'adresser à la Scola Saint-Grégoire, qui est chargée de l'organisation matérielle, dont l'adresse, alors Scola Saint-Grégoire, 26 rue Paul Lignol, L-I-G-N-E-U-L, 72 000, Le Mans. Et on peut téléphoner 43 28 08 76... en faisant le 16, bien entendu, puisque c'est en province. Et on peut également envoyer un fax au 43 87 03 54. Donc, on peut demander le programme. Dans le programme, il y a un bulletin d'inscription qu'il est recommandé d'envoyer avant le 15 septembre, si possible. Donc, il ne faut pas tarder pour qu'ils aient une idée un petit peu du nombre de personnes qu'il y aura. Également, il y aura des services de car qui seront prévus, qui sont gratuits, pour transporter les gens, en particulier de la cathédrale au Crédit Agricole, etc. Donc, ils ont besoin de savoir combien de places il y aura besoin. La seule chose qui est à régler, c'est le buffet du dimanche. Pour ceux qui le désirent, il est prévu un buffet au Novotel et il faut régler 100 francs par personne. Mais tout ça est marqué, c'est très modeste, oui. Tout ça est marqué sur le bulletin d'inscription, donc on peut demander à la Scola Saint-Grégoire. Voilà, pour la partie pratique.
Beau programme. Alors, M. Pierre Blanchard, vous êtes, je l'ai dit, trésorier de l'Association internationale de musique sacrée, dont Yves-Jean nous a dit plusieurs fois l'intituler en italien, puisque c'est une association...
En latin.
C'est puisque c'est une association... Puisque c'est une organisation pontificale qui est installée à Rome. Et je vais vous demander de répéter cette appellation, puisqu'on ne s'en lasse pas.
Je vais vous la dire en latin, c'est la Consociation Internationalis Musicae Sacrae, qu'on peut traduire comme Association Internationale de Musique Sacrée. Mais plus qu'une association, c'est un organisme de consultation musicale du Saint-Siège.
C'est-à-dire que le Saint-Siège se tourne vers cet organisme
pour demander avis. Et fait appel à des compétences à des professionnels de la musique sacrée, n'est-ce pas ?
Alors, on peut dire quand même en deux mots pour qu'on sache qui vous êtes, que vous vivez à Rome et que vous occupez des très hautes fonctions auprès du Saint-Siège, puisque vous êtes chargé de la gestion du patrimoine. C'est ça, je crois, vice-secrétaire de la gestion du patrimoine du Saint-Siège.
Avec une équipe, naturellement.
Bien sûr. Oui, j'imagine que ce n'est pas quelque chose qu'il peut gérer tout seul. Mais là, vous êtes là ce soir en tant que trésorier de l'association de musique sacrée. Alors, je précise, je le fais toujours, et je veux que ça soit bien clair, comme c'est une émission qui, en général, a très forte connotation politique, que votre présence ne constitue pas une adhésion sous quelque forme que ce soit aux propos qui ont été tenus dans cette émission, en dehors... des propos que vous allez tenir vous-même. Voilà, il faut que ce soit parfaitement clair. Ça va sans dire, mais ça va toujours beaucoup mieux en le disant. Voilà. Alors, je suis un peu surpris quand même de découvrir, je ne vous cache pas que je découvre l'existence de cette association, parce que on pouvait craindre que la question de la musique sacrée, surtout de la musique sacrée traditionnelle, et surtout de la musique sacrée en latin, puisque le chant grégorien est obligatoirement en latin, on pouvait craindre que ce soit une préoccupation un peu désormais étrangère au Vatican, donc c'est pas le cas.
Non, c'est pas du tout le cas, parce que la meilleure preuve, c'est que cette association a été fondée en 1963 par le pape Paul VI.
Exactement à la même date que la constitution conciliaire sur la liturgie, dans laquelle il y avait deux articles, il faut rappeler, un qui demandait que le latin reste la langue de la liturgie, et l'autre qui demandait que le chant grégorien, qui est le chant propre de la liturgie romaine, conserve la première place.
Et c'est si vrai que cette association a été instituée canoniquement comme personne morale par un document qu'on appelle chirographe, vous savez, c'est une lettre autographe du pape Paul VI, le 22 novembre 63, en la fête de Sainte-Cécile, et qui commençait par ces mots, latin encore, « Nobile subsidium liturgiae », c'est-à-dire que la musique sacrée est une noble aide à la liturgie. Donc c'est une préoccupation qui existe à Rome, même si parfois ça peut paraître un petit peu plus flou. Mais cette association existe, elle est très vivante, c'est une association internationale. Je peux vous parler un peu du comité exécutif, si vous voulez bien, avec son président.
Peut-être les membres, d'abord. Qui sont les membres de cette association?
Les membres de cette association sont environ 300 personnes. Ce sont 300 professionnels qui sont compétents.
Professionnels, vous dire musicologues,
musiciens d'église.
Oui.
Voilà. Professeurs d'université, de conservatoire. Par exemple, vous avez cité le professeur Bogart, qui est néerlandais. Il est professeur au conservatoire de musique de La Haye et professeur à l'université d'Utrecht. Nous avons parmi nos membres, disons, un américain qui s'appelle Paul Terz, qui est compositeur, pianiste, musicologue, n'est-ce pas?
Voilà.
Et nous avons ensuite un franciscain, le père Topic, qui est professeur à Sarajevo, je ne sais pas dans quelles
conditions
il est actuellement, le pauvre, mais il est membre de notre association. Nous avons, il ne faut pas l'oublier, un Français,
oui,
Daniel Roth, qui est organiste à Saint-Sulpice, à Paris.
Oui, je l'ai appris aujourd'hui.
Et qui est professeur à Sarrebruck. Voilà. Oui, c'est une association qui est un peu, disons, un petit peu élitiste, parce que ce n'est pas seulement les gens qui aiment la musique sacrée. Il s'agit d'un peu de parler sérieusement de la musique sacrée, donc on s'appelle à des professionnels compétents.
Est-ce qu'on peut dire que c'est l'équivalent dans le domaine de la musique sacrée de ce qu'est l'Académie des sciences pontificales qui était présidée par le professeur Jérôme Lejeune jusqu'à sa mort?
L'Académie pontificale de la vie. Parce que,
de la vie, oui,
parce que l'autre c'était des sciences, c'était le professeur Marini Bettolo, je pense. Bon, écoutez, je ne veux pas nous comparer à l'Académie pontificale des sciences, ça me paraît un peu excessif, mais disons que les composants, les membres de cette association, surtout des professeurs, des universitaires, des musicologues, c'est deux plans différents. Mmh. Enfin, disons que les membres sont des professionnels de très bonne tenue.
Alors, vous parliez d'un rôle consultatif.
C'est ça.
Qu'est-ce que ça signifie exactement? Est-ce que, par exemple, un jeune compositeur, comme beaucoup, souvent les titulaires d'orgue, très souvent ont la veine de composition, composent des œuvres sacrées, est-ce qu'ils doivent soumettre ces œuvres ensuite?
Non, absolument pas. Il n'y a aucune obligation à soumettre leurs œuvres. Non, il n'y en a pas question. Simplement, s'ils veulent adhérer à cette association, il y a certaines conditions, mais ils les remplissent déjà, parce que ce sont des professionnels compétents.
Bien sûr, ils ont
tous les titres et même sont même dispensés de les démontrer, puisqu'ils sont connus dans le domaine public, si vous voulez.
Autrement dit, pour répondre à la question, elles n'exercent aucun contrôle.
Non, absolument.
C'est une organisation d'études et de conseils.
D'études scientifiques.
Est-ce que ça veut dire que le grégorien, puisque c'est de ça qu'on parle ce soir, est l'objet d'une conservation au sens muséologique du terme de la part de cette association?
Non, c'est pas une question de muséologique, je vois bien ce que vous voulez dire. Non, il s'agit de promouvoir et conserver, c'est-à-dire d'abord conserver et promouvoir le chant grégorien. C'est une hérédité culturelle musicale que nous avons depuis des siècles. On ne peut pas concevoir de l'abandonner aujourd'hui.
Alors, je vais poser une question.
Il n'y a pas une question de musée, si vous voulez. Je vois bien ce que vous voulez dire, mais c'est pas ça.
Je vais poser une question qui est probablement totalement idiote, mais enfin, ça ne surprendra pas Yves-Gir, qui a l'habitude de m'écouter. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des gens qui composent du grégorien? Est-ce qu'on peut innover dans le grégorien? Ou est-ce que c'est un ordre musical qui est définitivement arrêté?
Non, le grégorien est éternel comme l'Église. Donc, on en compose encore quand il y a des nouvelles messes. Par exemple, quand Pie XI a institué la fête du Christ roi en 1925, on a composé une messe qui est très belle. Quand Pie XII a promulgué le dogme de l'Assomption en 1950. Il y avait déjà une fête de l'Assomption avant, mais on a composé une nouvelle messe. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le grégorien qu'on compose maintenant est composé par imitation. C'est-à-dire que le plus souvent, on prend des mélodies existantes et on adapte des nouvelles paroles.
Mm-hmm. Mais enfin, on parlait d'architecture tout à l'heure, c'est un peu comme si on faisait... Enfin, c'est un peu comme quand on a construit certaines cathédrales à l'imitation de...
Du Viollet-le-Duc.
Oui, quand on a fait du Viollet-le-Duc, c'est ça. Mais sans connotation péjorative.
Pas exactement, parce que le chant grégorien, c'est quelque chose de vivant. C'est une tradition vivante qui s'est transmise tout au long des siècles. Donc quand on en compose maintenant, le plus souvent c'est effectivement par imitation, mais il y a quelquefois des choses un petit peu nouvelles, c'est pas impossible.
Monsieur Manchard, avez-vous l'impression que l'art sacré, la musique sacrée, aujourd'hui, dans l'église d'aujourd'hui, au Vatican aujourd'hui, est une préoccupation réellement spirituelle, ou est-ce que c'est une préoccupation qui relève plutôt d'une espèce d'attitude esthétique ?
Non, je crois que c'est une préoccupation spirituelle. Peut-être on ne l'aperçoit pas assez bien, mais quand on parle de musique, il y a aussi le problème de l'esthétique. Il y a les deux, n'est-ce pas ? Donc je crois que c'est une préoccupation spirituelle. Peut-être elle n'est pas toujours très partagée, mais notre association est là pour maintenir un peu vivante cette tradition. Si vous voulez.
Mais est-ce qu'on a ressenti quand même, malgré tout... Je vais rentrer là un peu, pas dans le vif du sujet, mais je vais tailler un peu dans le vif. Est-ce qu'on a ressenti malgré tout l'abomination que représentaient certains chants religieux modernes ? Enfin, j'allais dire l'hérésie, non, peut-être pas l'hérésie. Est-ce que ça a été ressenti ? Est-ce qu'on a
en tout cas, la désolation esthétique.
Et est-ce qu'on a voulu par là
Écoutez, j'ai le souvenir
d'un mariage d'un ami où nous écoutons les chants d'une chorale, une bonne chorale, et des gens fort sympathiques et avec beaucoup de bonne volonté. Et mon voisin se penche vers moi et me dit, mais qu'est-ce que c'est ? C'est le générique des Bisounours ou c'est un chant sacré ? Enfin, et est-ce qu'il y a là une volonté peut-être de faire renaître des choses et peut-être qui se prêtent plus à la prière, notamment, qu'on fait actuellement ? Parce qu'il faut avouer que souvent on n'a pas tellement envie de prier sur les choses que l'on
Je comprends ce que vous voulez dire. Je crois que beaucoup constatent qu'effectivement nos églises ne sont pas toujours pleines. Elles sont souvent de moins en moins pleines. Et beaucoup se lamentent d'entendre ce qu'on pourrait appeler des chansonnettes de temps en temps, n'est-ce pas ? Ce qui est tout à fait. Qui n'est pas admissible, si vous voulez, dans les offices.
Oui. Je dirais que moi, ce n'est pas une question d'être admissible ou pas. Je dirais plutôt, c'est. Je pense que le chant dans la liturgie, il est fait pour quoi ? Enfin, je pense qu'on est d'accord là-dessus.
C'est
pour élever les âmes, c'est pour faire prier, c'est pour aider à la méditation. Bon. Moi, je trouve pas que ce que vous faites actuellement, même si esthétiquement, quelquefois, c'est défendable, ça n'appelle pas à la méditation.
Je vous dis bien, on constate quand même que nos églises, souvent, se vident. Beaucoup de gens se plaignent de ce manque de qualité. Et la CHIMS est là pour assurer la qualité de la musique sacrée.
Ça, c'est remarquez, elle n'est pas toujours écoutée.
Elle n'est pas toujours.
Remarquez,
elle existe, elle est là pour ça.
Votre
domaine d'intervention n'est pas limité au grégorien. Vous...
Pas du tout, non.
Toute la musique sacrée, y compris la polyphonie.
Alors, je peux peut-être souligner un point à ce sujet-là. C'est que, parce que la CHIMS comporte plusieurs sections. Et il y en a une en particulier qui s'est beaucoup développée ces derniers temps, c'est qu'on appelle l'ethnomusicologie. Parce que c'est un organisme international qui doit s'occuper de la musique sacrée dans tous les pays. Et ils ont étudié les chants religieux de toutes les contrées. Et ils ont fait des symposiums, des réunions à ce sujet-là. C'est un problème qui les intéresse beaucoup.
Donc il y a un gros travail de recherche musicologique. Ouais. Et ensuite, de mise sur pied de congrès internationaux. Par exemple, avant la création de la CHIMS en 1963, en partant des années 50, on peut parler de quatre congrès très importants, notamment celui de Rome en 1950, celui de Vienne en Autriche en 1954, celui de Paris auquel M. Gilles a participé en 1957, qui paraît-il
était magnifique.
Magnifique. Et enfin, en 1961, un an avant le début du concile, à Cologne, et si on lisait les documents de ce congrès international, eh bien, on comprendrait beaucoup mieux les textes de la Constitution sur la musique sacrée, parce que c'est pratiquement la même chose, n'est-ce pas ? Ce congrès de Cologne,
qui a été organisée par Mgr Johannes Overath, qui est un prélat allemand.
On peut peut-être en dire un petit mot, parce que c'est vraiment lui qui est à l'origine.
Qui est à l'origine, n'est-ce pas, de cette consociation internationaliste musicae sacrae, parce que lui-même était président de l'Assemblée d'Association Générale de Sainte-Cécile pour les différents pays de langue allemande. Il s'est donc fait remarquer au Vatican, et le pape Paul VI l'a même nommé expert au Concile Vatican II pour la musique sacrée. Et les textes de la Constitution sur la musique sacrée sont parus en 1963 et ont été immédiatement suivis par la création de cette association internationale, qui a été confiée d'ailleurs à M. Overath.
Mais seulement c'est comme dans beaucoup de choses actuellement, hein, il y a des organismes qui font des études dont les autorités disent « oh, ça c'est très bien », mais à côté de ça, ils laissent faire un petit peu tout.
C'est le sentiment qu'on a en général, c'est qu'il y a un système qui est un peu déconnecté. On découvre l'existence de cette association qui est une chose extraordinaire, qui est à la fois...
Elle a 31 ans quand même.
Ouais, bon,
on ne fait pas de la publicité, évidemment.
On ne peut pas dire que vous soyez très actif médiatiquement.
Enfin, en France. Je peux vous assurer qu'il y a deux ans, nous étions à Rio de Janeiro, à l'Université fédérale de Rio de Janeiro, pour un congrès de musique sacrée et culture brésilienne. On est peut-être plus connu au Brésil qu'en France.
Mais je ne voudrais pas vous mettre en difficulté par le propos que je vais tenir, mais... On se demande parfois si une association de cette nature, par ses activités, par les activités brillantes qu'elle développe, ne fait pas paravent entre le Saint-Père et les organismes pontificaux et la réalité de l'Église. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne se trompe pas finalement au plus haut de l'Église sur la réalité de la situation de la liturgie aujourd'hui à cause de l'existence d'associations comme ça ?
Non, je crois qu'on ne se trompe pas sur la réalité exacte de la situation de l'Église, notamment au point de vue musical, parce que tout le monde s'en aperçoit, c'est difficile de fermer les yeux et de se boucher les oreilles. Donc je crois que ce n'est pas un paravent, et on essaye de se faire entendre, c'est sûr, c'est pas très facile, n'est-ce pas ? Mais quand même, de plus en plus, on constate que les gens reviennent, n'est-ce pas, au chant grégorien, à la polyphonie, parce que la situation actuelle est telle, personne ne peut le contester, qu'il va falloir trouver une autre solution ou revenir en arrière, mais pas dans le sens passéiste, mais dans le sens de la tradition, de la tradition de l'Église.
C'est-à-dire qu'un arbre, quand il plonge ses racines dans le sol, il va toujours de plus en plus en arrière à mesure que les racines s'allongent. Ça, c'est clair.
C'est sûr.
Et si on lui coupe ses racines, crève sur place.
Tout à fait ça.
La situation actuelle de la musique sacrée n'est qu'un aspect de la crise actuelle de l'Église.
C'est pour ça que c'est tout à fait intéressant d'en parler, parce que...
Il y a une crise, et il y a différents courants qui s'affrontent.
Et justement, à travers le grégorien, on s'aperçoit que c'est ce qui a constitué pendant des siècles, et pendant 12 siècles maintenant, on peut dire plus que l'essentiel, la quasi-totalité de l'expression musicale de l'Église en France, eh bien, aujourd'hui, si on veut sauver la situation, c'est à ça qu'il faudra en revenir, et pas à quelque chose qu'on aura inventé depuis. Et je voudrais, Yves Gire, si M. Blanchard le permet, que vous nous disiez quelques mots sur l'origine du grégorien. Qu'est-ce que c'est que cette musique ? D'où ça vient ?
L'origine du grégorien, c'est la prière de l'Église. Le grégorien n'est pas l'œuvre d'un compositeur, comme toutes les autres œuvres de musique sacrée, si belles soient-elles, et qu'ils peuvent être quelquefois l'expression d'un sentiment religieux profond. Mais le chant grégorien, lui, il est anonyme. Il s'est formé progressivement au fur et à mesure que la prière de l'Église se développait. On peut situer son origine à peu près au IVe siècle, puisque c'est à cette époque-là, d'abord, que grâce à l'édit de Constantin, l'Église est sortie au grand jour. Elle en était déjà sortie avant, mais elle était quand même dans une situation précaire.
Elle a pu commencer à chanter à pleine voix.
Elle a pu vraiment commencer à organiser son culte publiquement et à chanter à pleine voix. Et c'est également à ce moment-là que le latin s'est imposé comme langue unique de la liturgie, alors qu'auparavant c'était partagé avec le grec, puis il y en avait d'autres, il y avait l'hébreu et d'autres langues en Orient, enfin dans tout l'Occident c'était le latin et le grec. Le latin s'est imposé au IVe siècle, et le chant grégorien est sorti de la prière en latin. C'est ça qu'il est indissociable du latin.
Contrairement à ce que prétendent certains défenseurs des langues vernaculaires pour la liturgie, C'est pas une invention de Saint-Pie V de faire dire la messe en latin. C'est quelque chose qui date du IVe siècle.
Bien sûr. Ça n'est pas d'aujourd'hui. De toute façon, puisque vous citez Saint-Pie V, il n'a absolument rien inventé. La seule chose qu'il a fait, pour laquelle son nom est beaucoup cité maintenant, c'est de rendre obligatoire dans toute l'Église le rite romain, qui existait depuis des siècles. Mais il y avait beaucoup d'églises qui s'étaient mises à fabriquer leur propre rite, alors il a voulu mettre fin à tout ça en rendant obligatoire dans toute l'Église le rite romain, mais qui était en latin, bien entendu, depuis le IVe siècle, partout. Ça, le latin était là, sauf dans les pays d'Orient, mais enfin, il y a évidemment des églises d'Orient qui sont parfaitement catholiques, mais enfin, ça c'est un cas à part. Mais en dehors de ça, tout était en latin depuis le IVe siècle.
Alors, quelle est l'origine musicale, en quelque sorte? Quelles sont les origines musicales du grégorien?
Ben, il y en a eu d'abord diverses, parce que le chant liturgique a d'abord été différent suivant les régions. Il y avait le chant romain, donc qui était celui de Rome où était le pape. Il y avait aussi le chant milanais, qui était assez spécial et l'église de Milan a conservé son chant jusqu'à maintenant. Il y avait le chant hispanique, qu'on a appelé mozarabe au moment de l'occupation arabe, mais ce qui ne veut absolument pas dire une influence arabe, bien au contraire. Et puis il y avait le chant gallican. Il y en avait même peut-être plusieurs dans toutes les Gaules, et c'est seulement à l'époque de Charlemagne que ces chants ont été unifiés. Enfin, déjà Pépin le Bref, 8e, 9e siècle, qui ont voulu imposer le rite romain.
C'est Pépin le Bref, le premier, qui dit à ses chantres, voilà. vous allez me fabriquer une musique d'église.
Je vais même vous raconter une petite histoire qui est bien connue. Pépin le Bref avait été appelé à l'aide par le pape contre les Lombards.
Oui.
Parce que le pape pouvait plus beaucoup compter à cette époque-là sur le Basileus oriental qui s'occupait plus beaucoup de lui.
Il avait également d'autres soucis.
Il avait donc besoin d'un protecteur et s'était adressé au roi des Francs, Pépin le Bref, qui avait été couronné par Saint Boniface et qui était vraiment l'homme fort maintenant de l'Occident. Et donc, pour implorer cette aide, il est venu en France. Et quand il est venu en France, il s'est aperçu qu'il ne trouvait personne capable de lui servir sa messe dans le rite romain. Parce qu'en France, c'était le rite gallican. Alors probablement qu'il a dû manifester quelques regrets auprès de Pépin le Bref, et Pépin le Bref, qui n'était pas un imbécile, s'est dit qu'après tout, ça sera très intéressant d'adopter le rite romain dans tout son, parce que à ce moment-là, la liturgie était le moyen d'expression et le moyen d'éducation et le moyen de culture le plus répandu dans le peuple, et qu'en faisant, en adoptant l'unité de rythme, de rite, eh bien, ferait promouvoir une unité spirituelle et
langue spirituelle commune.
Ça contribuerait à l'unité de tout le royaume. Évidemment, Charlemagne ensuite est venu et il a étendu ça à tout l'Empire franc et il l'a, avec l'autorité qu'il avait, il l'a imposé. Et c'est comme ça que le rite romain s'est répandu dans tout l'Empire franc et qu'il est venu en contact avec les autres. Enfin, le chant romain est venu en contact avec les autres chants gallicans. Et c'est un petit peu cette fusion qui a donné le chant grégorien que nous avons maintenant. Parce que les mélodies grégoriennes telles que nous les avons dans nos livres, ça correspond à peu près à ce qui était chanté au IXe siècle, à l'époque de Charlemagne. Alors, il y a eu un troisième élément qui est intervenu également, c'est l'élément byzantin, parce que Charlemagne, qui a été un grand admirateur de Byzance et tout ce qu'il s'y faisait, parce qu'il voulait essayer de rivaliser en éclat avec les Basileus, il a voulu que les chantres de son empire s'inspirent des traités de musique qui étaient réalisés à Byzance, parce que les Byzantins étaient beaucoup plus des théoriciens que des praticiens. Et donc le chant a dû s'adapter également, en particulier le système des 8 modes tel qu'on le trouve dans le chant grégorien actuel vient de ces théories byzantines, et il a fallu adapter le chant. Donc c'est un petit peu sous ces trois influences, celle de Rome, celle de tout l'héritage gallican et celle de Byzance, que le chant grégorien tel que nous l'avons actuellement a fini par se forger comme dans un creuset. Il est resté à peu près, on l'a restauré maintenant à peu près tel qu'il était à cette époque-là.
Alors vous me disiez tout à l'heure que, hors micro, que parmi les influences des différents modes gallicans, on retrouvait l'influence de certains modes traditionnels celtes.
Alors ça, c'est une idée personnelle, mais je suppose que les chants gallicans devaient avoir aussi comme base certains prototypes mélodiques qui étaient en usage dans les Gaules et par conséquent d'origine celte. Et ça se remarque quand on compare certains chants grégoriens avec les chants traditionnels bretons. par exemple, qui ont conservé certainement également cette influence.
Ça, c'est qu'on retrouve aussi du côté de l'Iran.
Oui, parce que dans le chant grégorien, on retrouve certains archétypes musicaux qu'on retrouve dans toutes les civilisations, qui sont des intervalles mélodiques de base, on peut dire, correspondant à la musique naturelle. Enfin, ça serait des...
Oui, parce que tout à l'heure, j'ai voulu lancer hors micro le débat sur le caractère pythagoricien ou pas de la musique.
J'ai une petite question technique à poser, M. Gir, mais on y reviendra après.
Oui, on y revient après. Monsieur Blanchard voulait intervenir.
Je voulais dire que je ne voudrais pas que l'on croie que cette organisation, la Consociation Internationaliste Musique Sacre, est tournée vers le passé, est tournée vers la tradition, mais également tournée vers l'avenir. Voilà. Parce que je rappelle qu'en 1977... fut créé à Marialach, l'abbaye de Marialach, près de Cologne, un institut pour les études d'hymnologie et d'ethnomusicologie, et avec une section d'ethnomusicologie, n'est-ce pas?
Ça, c'est tout à fait passionnant, cet aspect de vos travaux, parce que j'allais y venir d'ailleurs, j'allais vous poser la question, vous avez avancé ma question.
Une de ses préoccupations, c'est de préparer une musique sacrée de qualité pour l'avenir, qu'il y a toujours des compositeurs de musique sacrée qui vont continuer à en faire, mais qui fassent quelque chose qui soit de qualité et qui soit apte au culte et à exprimer les sentiments religieux que nous devons exprimer. Et ceci également dans tous les pays, avec la culture propre et le génie propre de chaque pays.
Alors, c'était un peu le sens de ma question. Quand vous parlez d'ethnomusicologie, il s'agit d'étudier les grandes constantes de la musique liées aux grandes constantes ethnologiques, aux différents pays, aux différentes espèces, non pas espèces, mais on n'ose plus dire le mot maintenant, aux différents groupes humains. Voilà.
C'est ça.
Alors, est-ce que vous avez constaté, à travers ces recherches, est-ce qu'on peut dire que le grégorien est plus adapté à certaines ethnies, ou est-ce que c'est vraiment un chant universel?
Le Concile le considère comme le chant par excellence de l'Église universelle. Il est vrai que pour l'Europe, c'est plus, adapté, si vous voulez. On ne peut pas imposer du grégorien en Afrique équatoriale facilement.
Ah si, sans l'enfer. Les Africains sont très portés sur le grégorien.
Ah bon?
On en a eu des exemples avec la chorale de Dakar, quand justement la Scola Saint-Grégoire a fêté son cinquantenaire en 88, il y a 6 ans, parce qu'elle donne des cours à Dakar. Et il y a une chorale de Dakar qui est venue. Et ils ont chanté, les Africains, et pas seulement à Dakar, mais partout où on les laisse faire, ils chantent le grégorien magnifiquement. Et ils le chantent entièrement par cœur, parce qu'ils ne savent pas lire la musique. Mais ils ont le rythme grégorien dans la peau, beaucoup plus que nous, occidentaux. Parce que nous, occidentaux, nous sommes déformés par plusieurs siècles de musique tonale et mesurée. Alors que le chant grégorien n'est ni tonal, ni mesuré. Et les Africains, eux, ils adoptent le rythme grégorien spontanément. Parce que le chant grégorien a comme caractéristique musicale, on n'a pas le temps de s'y attarder, mais essentiellement la liberté rythmique et la liberté modale. Alors que notre musique occidentale, elle est enfermée dans le système tonal, elle est enfermée dans les barres de mesure.
Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous demandais qui avait interprété le disque, comment on reconnaissait, parce que souvent on peut reconnaître une chorale grégorienne par son chef qui lui donne une certaine rythmique, une certaine mode, ou un certain mode.
Oui, mais enfin, de toute façon, quelles que soient les chorales grégoriennes, ils l'interprètent tous avec le rythme et la modalité du chant grégorien. C'est pas à ça qu'on reconnaît une chorale, on la reconnaît à sa sonorité, à sa certaine nuance. Mais ça, je crois que c'est très important, l'Afrique.
Ça, c'est très intéressant, effectivement. On n'avait pas évoqué ça.
Ah oui, alors l'année dernière, il y en a eu des journées grégoriennes organisées par Una Voce à Lyon, on avait invité un chef de chœur africain de Dakar, justement, qui est venu apporter son témoignage. Et alors, pour préparer cet exposé, il avait lancé une enquête dans ses choristes. Alors, il faut que je vous dise qu'à Dakar, qui est une ville d'un million d'habitants, donc beaucoup plus petite que Paris, il y a de nombreuses chorales grégoriennes, et chaque chorale grégorienne, c'est 100 à 200 membres. Voilà. Et ils chantent tout par cœur. Et alors, il avait invité ses choristes à lui répondre aux questions, pour vous, le chant grégorien, qu'est-ce que ça représente, et pourquoi est-ce que vous l'aimez? Et il y avait vraiment des réponses extrêmement intéressantes, évidemment, un des arguments qu'ils ont donné, c'est qu'en Afrique, il y a une multiplicité de langues, même à l'intérieur d'un même pays. Et qui ne sont pas capables de se mettre d'accord pour une liturgie vernaculaire, comme on dit. Parce qu'immédiatement, ça entraîne des dissensions, des rivalités. Tandis que le latin, c'est bon pour tout le monde. Et je me rappelle à ce sujet-là, quand la chorale de Dakar est venue au Mans en 1988, bon, la messe avait été présidée par l'évêque du Mans, Mgr Gilson. Il avait trouvé le moyen dans son homélie de dire « Oh, les mélodies grégoriennes, c'est magnifique, mais pourquoi ne mettrait-on pas des paroles françaises dessus ?» Et alors, dans le petit toast, ce qu'il a fait à la fin du déjeuner, devant l'évêque, le chef de chorale de Dakar a dit « Nous, si nous sommes venus, c'est pour le latin. » Mais ils aiment beaucoup le grégorien et ils le chantent très bien. Et c'est tout à fait bien adapté aux Africains, oui. Et en un certain sens, plus qu'à nous. Alors que le chant grégorien est d'origine occidentale. Mais l'Occident a subi toute
une
évolution.
Un Occident, si j'ose dire, sans aucune péjoration, un Occident sauvage, primitif.
Oui, quoique sauvage et primitif sont des mots qui ont une connotation péjorative. Qui n'est pas,
essayez d'en trouver d'autres.
Denise, oui.
Frais, alors, disons, oui. dans toute la fraîcheur de ses origines.
C'était, on fait quelquefois remonter les origines de la musique notée au grégorien, qui, je crois, a une notation différente de la musique telle qu'on la connaît,
oui,
aujourd'hui.
Mais, non, alors il faut dire deux choses. D'abord, c'est que la notation grégorienne n'est intervenue qu'environ au XIe siècle. Et auparavant, on chantait tout par cœur, il n'y avait pas de notation. Mais en revanche, il y avait certaines musiques, les Grecs avaient des notations, les Romains avaient des notations. Il y a eu des notations musicales avant, mais ça s'était perdu pendant la période barbare.
Et alors la notation, elle est différente quand même, je crois, la
notation. Oui,
la
notation. Parce
dans le nombre des lignes, dans le nombre des...
C'est ça, oui. La portée est de 4 lignes et les notes sont carrées au lieu d'être rondes. Bon, ça c'est pour des très grandes différences.
Non, mais c'est intéressant.
Mais cette notation-là, elle remonte seulement au XIe siècle, à peu près.
Mais on a gardé toujours la même notation.
Oui, alors quand les bénédictins de Solesmes ont restauré le chant grégorien au XIXe siècle, ils ont fait une nouvelle édition, qu'on appelle d'ailleurs l'édition Vaticane, parce qu'elle a été rendue officielle par l'Église. Ils se sont efforcés de reproduire le plus fidèlement possible la notation du Moyen-Âge, de cette époque-là. Ce qui facilite d'ailleurs pas toujours la lecture, mais enfin, ils y ont tenu pour montrer qu'ils étaient bien tout à fait fidèles à la tradition.
Oui, je voulais préciser que je suis d'accord qu'il existe quelques chorales africaines qui chantent grégorien, mais pour la généralité des paroisses en Afrique, on ne peut pas imaginer que tout le monde chante le grégorien, n'est-ce pas ?
Non, on pourrait très bien.
On peut l'imaginer, mais dans la réalité pratique et concrète, je crois qu'à ce jour, ça n'existe
pas.
Enfin,
il faut qu'ils aient aussi une...
Mais est-ce que votre association se penche, par exemple, sur la musique spirituelle africaine moderne, actuelle.
Africaine, brésilienne, indigène, certainement, oui, tout à fait. Je vous rappelle qu'il y a deux ans, à Rio de Janeiro, nous avons participé au troisième symposium international de l'association dans le cadre du 5e centenaire de l'évangélisation d'Amérique latine. Et le but, n'est-ce pas, de ce symposium était de rechercher les racines des musiques indiennes. Donc vous voyez que nous ne sommes pas tournés seulement vers le passé. À ce propos, d'ailleurs, j'aimerais citer une réflexion du vice-président de la CHIMS à l'époque. Nous étions à quelques mois de la conférence sur l'environnement, vous savez, à Rio. Et il a pu dire cette phrase tout à fait intéressante. Il ne s'agit pas seulement de sauver les forêts tropicales, mais aussi des forêts musicales des cultures indigènes indiennes, et de ne pas tolérer la destruction d'un patrimoine culturel vieux de plusieurs siècles. Et puisqu'il est possible au Brésil d'étudier les plus importants problèmes musicologiques de base, les musicologues entendent suivre avec une attention particulière le développement et les études du Brésil. Ce n'est pas seulement une volonté comme ça, esthétique, culturelle. Je rappelle que l'article 37 de la Constitution sur la liturgie, Concile Vatican II, s'exprime comme suit. Je crois que ça pourrait intéresser peut-être les auditeurs. Je serai très bref comme citation. Voilà ce que dit l'article 37. L'Église, dans les domaines qui ne touchent pas la foi ou le bien de toute la communauté, ne désire pas, même dans la liturgie, imposer la forme rigide d'un libellé unique. Bien au contraire, elle cultive les qualités et les dons des divers peuples et elle les développe. Tout ce qui, dans leur mœurs, n'est pas indissolublement solidaire de superstitions et d'erreurs. Elle l'apprécie avec bienveillance et si elle peut, elle en assure la parfaite conservation. Qui plus est, elle l'admet parfois dans la liturgie elle-même, pourvu que cela s'harmonise avec les principes d'un véritable et authentique esprit liturgique. Donc je ne voulais pas qu'on reste sur l'idée que cette association est passéiste. Elle est tout à fait
j'ai bien compris. Le texte que vous venez de lire, M. Blanchard, me paraît tout à fait extraordinaire et extraordinairement fort et porteur de vérité, parce que là, on est en présence d'un débat, c'est-à-dire qu'effectivement, oui. Là, il y a un débat profond. D'une part, les pères conciliaires ont dit,
Avec tous les précautions qui sont dites là.
Avec les précautions d'usage.
Et les traditionalistes, dont je m'honore de faire partie, disent, eh ben, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que tout le drame de l'Église vient du fait que les pères conciliaires ont dit, un beau jour, à propos de ce sujet-là, eh bien, tout ce qui n'est pas indissolublement attaché à la superstition peut alimenter le débat, servir à créer une nouvelle liturgie, etc. Et nous, nous pensons que c'est comme ça que les fumées de Satan sont entrées dans l'Église.
Oui,
voilà. C'est pour ça qu'on est tellement attaché.
Tout ça à l'étude, hein, naturellement.
J'entends
on
ne
peut pas rester seulement dans le passé, je crois que c'est pas possible. Mais il faut des musiques, n'est-ce pas, qui soient adaptées, qui soient sérieuses.
La question, je crois
qu'il
que
soit ressentie par les fidèles.
La seule question réelle, c'est
de qualité.
Savoir, si la musique spirituelle qui est faite pour élever l'âme, vous l'avez dit tout à l'heure, et pour favoriser la prière, si n'importe quelle musique peut élever l'âme et favoriser la prière. Si non, des non. musiques qui sont des musiques la primitives...
Prière, le concile le dit, la première musique, c'est le chant grégorien, ça c'est évident. Mm. Bon, on constate qu'il n'est pas constamment appliqué, ça c'est vrai.
Mais autant, il est vrai qu'il faut être méfiant bon, sur un peu sur ce sujet, parce que c'est ce qui s'est passé un petit peu, au 19e siècle en Italie, et notamment en Italie du Nord, où la musique sacrée, enfin notamment la musique sacrée d'orgue, je crois, enfin je parle sous le contrôle de M. Gire, hein, qui est sûrement plus avec moi sur ce sujet, avait subi une mutation un peu importante, notamment avec des compositeurs comme le Padre David de Bergamo ou alors Morandi. Et au début, il y a eu un étonnement, parce que cette musique était vraiment d'inspiration très, très, très populaire, n'avait rien à voir avec ce qu'on avait entendu avant. Et il est évident que les ecclésiastiques, sur le coup, sont restés un petit peu sceptiques. Et puis, quand on s'est aperçu que ça remplissait les églises, c'est-à-dire le contraire de ce qui peut se passer aujourd'hui avec certaines musiques, qui vide les églises, là ça remplissait les églises, les gens malgré tout semblaient, et c'est vrai qu'à l'écoute maintenant on s'aperçoit que ces musiques portaient vers la méditation, portaient à l'élévation de l'âme, et bien tout ça est passé dans les mœurs parfaitement, et donc là c'était bien qu'il y ait eu une inspiration plutôt moderne et plutôt populaire, donc faut être méfiant.
Oui, si vous permettez, hein, le problème je crois que c'est que de toute façon l'église a toujours admis de nouvelles musiques sacrées. Il y a eu le chant grégorien à l'origine, et puis ensuite, à la Renaissance, il y a eu les polyphonies de la Renaissance, et de tout temps, il y a de nouvelles musiques sacrées qui se sont créées, et il faut que ça continue. Moi, je dis toujours, la différence entre le chant grégorien et toutes ces musiques, c'est que toutes ces musiques sont des invités, alors que le chant grégorien est l'enfant de la maison.
C'est vrai.
Il est le résultat de la prière de l'Église, mais l'Église accepte bien volontiers des invités. Tout ce que les compositeurs, avec leur génie et aussi leur piété, peuvent apporter est bienvenu. Mais le rôle de la CIMS, d'une association comme ça, est justement de fixer, d'étudier toutes ces nouvelles compositions, de fixer les règles et faire les études qui mènent à savoir si elles sont véritablement conformes au culte ou non, si elles sont vraiment conformes, si elles sont vraiment aptes à exprimer les sentiments religieux et si elles sont aptes à être introduites dans le culte.
Exactement.
Voilà, c'est ça. Mais elle ne veut pas freiner la création, bien entendu.
C'est
aussi un rôle important. Il y a la conservation du patrimoine et il y a également la création.
Alors, Eugène, vous nous avez apporté une cassette que vous avez choisie. On va pas écouter beaucoup de musique puisque bon, ça n'est pas l'objet de cette émission.
C'est un exemple de chant grégorien chanté par une foule. C'était justement à ce congrès de Lyon de l'année dernière, où il y avait une grand-messe magnifique dans la basilique de Fourrières, selon le rite lyonnais traditionnel, avec une chorale de 120 chanteurs et toute l'assistance. J'ai pris une pièce du Kyrialé pour montrer comment tout le monde chantait.
C'est ça. Alors donc c'est le Kyrialé, c'est-à-dire la chanson de toute l'assemblée,
le chant de toute l'assemblée.
On s'imagine quelquefois que le grégorien n'est chanté que par les moines, mais bien sûr, il est chanté...
Les choristes ne sont pas moines. Glory be to God.
Oui, il y a plusieurs, beaucoup de questions. On va les
sérieux.
Les sérieux. Mais avant, je voudrais revenir à l'association dont M. Pierre Blanchard est le trésorier. Vous nous disiez, hors micro, M. Blanchard, que cette association publie une revue.
Exactement. Elle existe depuis 31 ans déjà. Son nom est Musice Sacre Ministerium, c'est-à-dire le ministère de la musique sacrée. C'est une revue qui est annuelle, qui comporte en général une centaine de pages, qui est multilingue et qui parle de nos différents congrès, des recherches de cet institut pour les études d'hymnologie et d'ethnomusicologie, et disons qu'il s'adresse à des spécialistes, à des professionnels, plus que, disons, qu'à des amateurs du chant grégorien.
Mais si on voulait en avoir un spécimen, est-ce qu'on pourrait...
Tout à fait, tout à fait, certainement. Si on nous envoie les noms, les adresses,
normalement, nous pourrons... Normalement, c'est réservé aux membres.
C'est réservé aux membres. Mais enfin, écoutez, puisque ce soit M. Mario Contoisi, nous n'avons pas des milliers d'auditeurs, nous n'aurions pas nous-mêmes la revue, nous avons simplement, je crois, 1000 exemplaires par an, n'est-ce pas?
Donc, mais si les auditeurs sont vraiment intéressés... Si
quelques-uns sont intéressés, éventuellement...
Et motivés, comme on dit maintenant. Ouais,
motivés, parce que voilà. C'est une revue qui est scientifique, faite par des professeurs, et qui est multilingue. Hein,
oui. Donc il faut au moins parler allemand,
italien, portugais, voilà. Français, naturellement.
Et alors, une des activités, il faut quand même le rappeler, de la CIMS, c'est d'organiser des symposiums, des rencontres, comme ça, qui sont l'occasion de faire une démonstration de ce que devrait être la belle musique sacrée.
Et ça, on pourra en avoir une démonstration à Chartres.
À Chartres, voilà. C'est pour ça qu'il faut venir à Chartres.
Oui, et en rappelant tout à fait brièvement que le dernier congrès international, qui était le 8e congrès, s'est déroulé à Rome, et il a réuni plus de 1200 personnes. Oui. C'était pendant l'année
85.
Européenne de la musique, n'est-ce pas?
Et alors, un congrès international, c'est plus ample qu'un symposium. Ça dure une semaine, des quantités de manifestations.
Merci. Pour finir, je vous redonnerai la parole à tous les deux, si vous voulez, ensuite. Deux questions qui s'adressent peut-être à Yugir plus particulièrement, je ne sais pas. La première question, elles sont toutes les deux techniques. La première est d'une auditrice qui nous dit, est-ce que les chants arméniens sont des chants grégoriens ou sont-ils différents du grégorien dont vous parlez?
Non, ils sont différents pour la bonne raison que ça n'est pas la même langue. Alors, une des caractéristiques fondamentales du chant grégorien, c'est que c'est du latin chanté.
Et la deuxième question, alors, qui pourrait certainement ouvrir un cours de musicologie, mais si vous pouvez y répondre rapidement, je n'en doute pas, qu'est-ce que le tonal et le chant normal? Quelles sont les différences?
J'ai opposé tonal et modal.
Et modal, pardon, oui.
En disant que toute la musique, à peu près depuis le XVIe siècle, est basée sur le système tonal, c'est-à-dire que vous avez une gamme, par exemple la gamme de Do, dans laquelle le Do est une tonique, qui est une note qui a une importance privilégiée par rapport aux autres et sur laquelle on doit terminer. Alors que dans la musique ancienne, la musique modale, vous avez sur la même gamme de Do, la mélodie peut se terminer sur n'importe quel degré, ce qui fait autant d'échelles différentes, puisqu'évidemment les tons et les demi-tons ne sont pas rangés dans le même ordre, ce qui donne une très grande liberté et une très grande souplesse.
Et puis il y a une troisième question. On a évoqué les origines du grégorien tout à l'heure, mais Philippe Varlet, qui est un grand dévoreur de livres, dit avoir lu dans un livre parlant du grégorien que ce mode... de chant et d'origine juive, qui trouve sa source dans le chant liturgique juif.
Alors, il faut dire que la structure de l'office catholique, de la messe et l'office, a son origine effectivement dans la liturgie juive. On retrouve tout le même déroulement, exactement. Mais au point de vue musical, non. Le chant grégorien, au point de vue musical, n'a absolument rien à voir avec ce que pouvaient être les chants des juifs. Qui sont des chants essentiellement orientaux, qui ressemblent un peu aux chants arabes ou de tous ces pays-là. Le chant grégorien, lui, au point de vue musical, c'est quand même formé en Europe, mais avec certains archétypes, comme on l'a dit, qu'on retrouve un petit peu dans les différentes parties du monde.
Alors, pour finir, Rivière, vous qui, depuis 6 ans, animez une émission hebdomadaire sur Radio Courtoisie, qui est consacrée aux grégoriens, mais pas seulement à diffuser de la musique grégorienne, mais aussi à l'expliquer, à la remettre dans son contexte liturgique, à expliquer comment telle et telle technique musicale, telle et telle technique du grégorien ou tel et tel mode peut exprimer tel et tel sentiment ou tel et tel moment de la liturgie, est-ce que vous avez l'impression que le grégorien va retrouver la place qui est la sienne dans la liturgie?
Je ne peux pas prédire l'avenir. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a quand même un progrès depuis quelques années. Il y a, disons, depuis une vingtaine d'années, là, c'était le creux de la vague. Tout à fait. On avait l'impression que le grégorien allait complètement disparaître. Bon, grâce en partie, mais en partie seulement, je ne veux pas être trop prétentieux, à des associations comme Una Voce et tous ceux qui se sont démenés, on a réussi à le maintenir et maintenant ça revient. Ça revient quand même en grande partie. Et grâce aussi à la Scola Saint-Grégoire qui fait un travail énorme. Je voudrais en dire un petit mot si vous me permettez, puisque ce symposium de Chartres, il est organisé par la CIMS, mais la CIMS a confié l'organisation pratique à la Scola Saint-Grégoire, qui est une école de musique sacrée qui existe, elle, depuis plus de 50 ans, puisqu'on a fêté son cinquantenaire en 88, et qui s'est toujours consacrée à l'enseignement du chant grégorien. Et après le concile, ça a été très dur, parce que tous les élèves avaient disparu. Elle a tenu bon. Je dis quelquefois, c'est une école qui tient bon, parce qu'elle est dirigée par des femmes. La fondatrice était Mademoiselle Bellin, elle est morte en 75. Maintenant, c'est Mademoiselle Lebon qui la dirige. Et donc, les femmes ont une ténacité, peut-être, que les hommes n'ont pas toujours. En tout cas, la Scola continue de faire un travail extraordinaire, essentiellement un travail de formation. Or, j'aurais encore lancé un appel pour que beaucoup de personnes acceptent de recevoir cette formation, parce que si on veut que le chant grégorien se maintienne, il faut des chanteurs pour le chanter et des chanteurs qualifiés, parce que si on ne le chante pas bien, il disparaîtra. Alors, la Scola Saint-Grégoire donne essentiellement des cours par correspondance. Ça peut paraître un petit peu curieux d'apprendre à chanter par correspondance, mais on apprend toute la théorie comme ça, on fait des devoirs. Évidemment, ça doit être complété par des stages et des sessions d'application pratique de ces cours qui ont lieu. Il y a une session tous les ans au mois de juillet qui dure une semaine, et puis il y en a aussi pendant l'année des sessions de week-end. Tout le monde peut en organiser.
Alors, où faut-il écrire?
Alors, l'adresse que j'ai donnée tout à l'heure et que je rappelle, c'est celle à laquelle il faut s'inscrire pour le symposium, mais c'est également celle à laquelle il faut écrire si on veut des renseignements sur l'enseignement du chant grégorien. Scola Saint-Grégoire, 26 rue Paul Lignol, L-I-G-N-E-U-L, 72 000, Le Mans, téléphone 43 28 08 76. En plus, il y a également un cours oral alors à Paris, dont je suis le responsable, et il y en a un autre à Versailles. Alors là aussi, on peut donner toute précision sur les jours et les heures. Et je souhaite qu'il y en ait beaucoup qui s'y inscrivent.
Merci. Monsieur Blanchard, un dernier mot.
Un dernier mot pour annoncer le prochain congrès de la CHIMS qui aura lieu en septembre 1995 à Maastricht, et dont le thème sera Thesaurus Musicae Sacrae, c'est-à-dire le trésor de la musique sacrée, et qui parlera de l'importance des psaumes, de la richesse théologique de ces psaumes, des répertoires, des compositions de toutes les époques sur les psaumes.
Alors là, ce sera un congrès international plus important qu'un simple symposium.
Mais je vous remercie. Au moins, on a eu la satisfaction de découvrir que ces questions étaient encore à l'ordre du jour dans l'Église d'aujourd'hui, au plus haut niveau, puisque je rappelle que M. Pierre Blanchard est trésorier de l'Association internationale de musique sacrée, qui est une organisation pontificale.
On peut peut-être rappeler, Serge, quand même, que la SERP avait édité il y a quelques années un disque relativement intéressant, puisqu'il n'avait rien à voir dans sa conception avec les disques de Grégorien qui sont faits et qui ont toujours été faits, qui s'intitulait La Journée monastique, qui avait été enregistré donc au monastère du Barou. Qui n'avait pas un but, je dirais, esthétique musical, mais qui expliquait un petit peu comment le grégorien s'impliquait dans la vie du moine. C'était la Saint-Barthélemy. Mais c'est moi qui ai fait le disque, je ne me souviens plus.
J'ai la cassette et je m'en sers quelquefois.
Et il y avait des choses un petit peu intéressantes. Ça n'était pas, on l'avait enregistré avec la Scola. Uniquement, hein, puisque c'était les débuts du Barou, et il y avait des aspects intéressants de ça. Voilà, je crois que c'est toujours en vente à la SERP.
Merci. Victoria, vous voulez nous dire quelque chose?
Il est l'heure maintenant. Il y avait beaucoup de questions.
Il faut choisir entre la parole aux invités.
Vous demandez en particulier donner le nom du livre de Péan dont vous avez parlé.
J'en parlerai. Ça s'appelle Affaires africaines. Et je crois que c'est paru chez Albin Michel, mais je ne suis pas absolument certain. Voilà. Et Péan vient de publier, ou est en train de publier un livre sur Mitterrand et Vichy.
Des exclusivités de Mitterrand sur certains faits avec le maréchal Pétain.
Ça risque de n'être pas inintéressant.
Et dans Match de demain, une photo de Mitterrand petit avec le maréchal Pétain. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, diffusé en direct le 31 du mois d'août, mercredi de 18 à 21h, et en différé le jeudi 1er septembre dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Patrick Simon. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Pour nous aider à demeurer libre, vous pouvez adhérer à notre association. La cotisation annuelle minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Nous adressons 3 exemplaires de chaque publication aux adhérents qui auront décidé de cotiser pour une somme supérieure à la redevance de télévision. Adressez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les 2 cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix global franco de port de 130 francs ou 95 francs seulement si vous êtes adhérent de notre association. En envoyant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Notez bien l'adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Merci d'être resté avec nous jusqu'à présent. Je vous rappelle que la semaine prochaine, je recevrai Jean-Marie Le Pen pour un entretien d'une heure et demie sur la situation en général et sur ses projets, que je crois deviner. D'ici là, bonne semaine, que Dieu nous garde.
Immortel, volontaires et officiers blancs.